Thomas Lequartier, Europe 1, CNews, la matinale week-end.
Bonjour, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour la matinale week-end CNews Europe 1, de l'info, du débat, de l'analyse avec nos nombreux invités. À 8h40, l'interview de Jean-Pierre Alcabache. 7h50 et 8h30, les chroniques politiques de Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Sans oublier, bien sûr, c'est important, la météo de votre week-end. Il est 7h, dans quelques secondes, la matinale week-end CNews Europe 1 commence maintenant. Vous écoutez Europe 1, il est 7h, très bon réveil. À la une de l'actualité, si vous nous rejoignez ce matin, le mal-être au sein de l'institution police, le syndicat Unité SGP Police dénonce l'explosion des arrêts maladie au service central de la circulation de Paris. Il serait déjà environ 150 en arrêt. Des policiers qui dénoncent des conditions de travail intenables, en toile de fond, souffrance, dénigrement, burn-out. La préfecture de police que nous avons joint ne confirme pas ce chiffre. Elle nous informe en revanche qu'elle communiquera sur ce dossier d'ici demain lundi. Écoutez le témoignage de ce policier justement en arrêt maladie. Il témoigne.
Psychologiquement, nous sommes atteints. Cela engendre de grosses difficultés dans nos vies. Donc des conflits avec les conjoints, avec les enfants. Et nous n'avons aucune reconnaissance. Donc psychologiquement, c'est très difficile. Puis je vous parle de ça, ça fait pas seulement quelques jours, quelques semaines que ça dure, mais ça fait des années.
Témoignage complet à suivre dans les prochaines minutes. Également à la une ce matin, la politique. Ne parlez plus jamais de primaire au LR. C'est déjà de l'histoire ancienne. Les Républicains désigneront finalement leur candidat à la présidentielle par un vote de leur seul adhérent. Grand soulagement de la direction du parti qui espère rallier donc ainsi Xavier Bertrand au processus. L'objectif, c'est d'avoir enfin un nom le 4 décembre prochain. Christian Jacob, le président des Républicains hier.
Dès mardi, nous sommes au travail. Nous aurons un comité, un conseil stratégique qui se réunira en tant que commission des statuts pour valider le formulaire de recueil des parrainages. Et ensuite, le 6 octobre, bureau politique qui mettra en place l'instance de contrôle et puis le comité d'organisation.
En bref, les mobilisations anti-pass du samedi, 11e épisode donc hier, encore en baisse, environ 63 700 manifestants, dont 7 200 à Paris, ont été recensés hier à 18h par le ministère de l'Intérieur. 197 actions au total sur l'ensemble du territoire. Sur le front de la Covid-19, promesse du chef de l'État Emmanuel Macron, la France va donner aux pays pauvres 120 millions de doses de vaccins, le double de ce qui était prévu. En Afrique, c'est à peine 3% de la population qui est vaccinée. On doit aller plus vite, plus fort, dit le président de la République. La Covid-19 toujours avec les derniers chiffres en France. La décrue est bel et bien amorcée. Elle se poursuit à l'hôpital. 1571 patients restent néanmoins hospitalisés dans les services de soins intensifs contre près de 2300 début septembre. La France a enregistré encore hier malheureusement 29 décès. C'est donc ces dernières 24 heures. L'actualité à l'étranger, après 16 ans à la tête de l'Allemagne, Angela Merkel s'apprête à tirer sa révérence. Les élections législatives se déroulent aujourd'hui, dimanche. 30 ans de politique, 4 mandats. Jeanne Cancard vous raconte.
À 35 ans, juste après la chute du mur de Berlin, Angela Merkel entre en politique. La future chancelière gravit alors discrètement les échelons de la CDU jusqu'à la diriger en 2000. 5 ans plus tard, elle est élue à la tête de l'Allemagne. 3 ans après, la chancelière traverse sa première tempête, la crise financière mondiale. La dame de fer impose alors une politique de rigueur budgétaire au sein de l'Union européenne, au risque de plonger la Grèce dans la faillite. Mais c'est en 2015 qu'Angela Merkel prend l'une des décisions les plus importantes de sa carrière. Elle décide d'ouvrir les frontières de son pays à des centaines de milliers de réfugiés. En 2018, un an après sa réélection et alors que la crise migratoire nuit à sa popularité, elle annonce briguer son dernier mandat.
J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre.
Plus d'un an après, une crise imprévisible remonte sa cote de popularité. Pour les Allemands, Angela Merkel a géré avec rationalité la crise de la Covid-19.
Soyez rassurés, pour quelqu'un comme moi, pour qui le voyage et la liberté de circulation sont un droit durement acquis, de telles restrictions ne seront établies qu'en cas de nécessité absolue.
Alors qu'Angela Merkel s'apprête à quitter le pouvoir, trois quarts des Allemands se disent satisfaits de son action.
CNews Europe 1, 7h04, un mot de sport. Le Paris Saint-Germain a obtenu une 8e victoire en 8 matchs de Ligue 1. C'était hier soir à domicile au Parc des Princes contre Montpellier. Victoire 2-0 sans Lionel Messi ni Marco Verratti, tous deux ménagés à cause d'une gêne à un genou. Une victoire à 3 jours de la réception de Manchester City en Ligue des Champions. La météo avec vous, Claire Delorme. À quoi faut-il s'attendre?
Un temps surtout encore très agité, très instable en ce moment en Méditerranée. Météo France a placé 4 départements en vigilance orange, pluie, inondation, orage, puisqu'un épisode méditerranéen est actuellement en cours. Il devrait prendre fin seulement à la mi-journée, donc un peu de patience. Et sinon, dans le détail pour l'après-midi, l'instabilité, l'activité électrique très intense restera surtout cantonnée dans l'extrême sud-est, alors que partout ailleurs, ça sera une alternance quand même de passages nuageux, de très timides éclaircies, mais aussi de bonnes averses, donc à surveiller. Et donc, pour les températures, eh bien regardez, après le passage des orages, forcément, ça baisse, mais elle reste quand même assez homogène et au-dessus d'un normal de saison, environ de 2 degrés. Donc ça se traduit par 23 degrés pour la capitale, 22 degrés à Strasbourg et tout de même plus de 30 degrés encore localement attendus en Corse.
Merci beaucoup Claire, on vous retrouve dans moins d'une demi-heure. La matinale week-end CNews en direct, vous pouvez réagir avec le hashtag la matinale week-end sur l'ensemble des réseaux sociaux. Jusqu'à 7h30 sur ce plateau, Philippe Laurent, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le maire UDI de Sceaux et candidat à la présidence de l'association des maires de France. En face de vous, il y a Eddy Haïd, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le maire écologiste de Carrières-sous-Poissy. Merci de votre présence également sur ce plateau ce matin. On en parlait dans le journal il y a quelques instants. Ce n'est pas nouveau, mais le mal-être des policiers s'intensifie dans certains services. Nous vous parlons ce matin d'un cas bien particulier. L'explosion des arrêts maladie au service central de la circulation de Paris. D'après le syndicat Unité SGP Police, cela concernerait déjà 150 policiers donc en arrêt maladie. Le syndicat évoque une réelle souffrance au travail, des burn-out ou même des mises en danger des effectifs. Dans quelques instants, le syndicat réagit, mais d'abord écoutez le témoignage de ce policier en arrêt maladie. Il témoigne ce matin dans la matinale week-end.
On a tiré la sonnette d'alarme, mais on n'est pas entendu. Nous avons l'impression d'être des numéros, des pions qu'on déplace. La préfecture nous emploie à leur guise. Les week-ends, lorsque nous sommes censés être avec nos familles, effectuer nos loisirs, on est rappelé, nous n'avons plus de repos les week-ends. Il y a des TG de restriction qui tombent régulièrement, qui nous dit que ce week-end-là, nous sommes susceptibles d'être rappelés. Donc on met notre vie en suspens, on attend le coup de fil de notre gestionnaire pour nous dire si on est rappelé ou pas. Et on ne peut plus rien prévoir, on ne peut plus aller en province voir nos familles, on ne peut plus voir nos enfants, nos femmes. Et c'est insupportable, ça devient insupportable et ça fait depuis beaucoup trop d'années que ça dure. On n'est pas écouté, tout simplement. De nos hiérarchies, on n'est pas écouté au niveau de notre directeur, au niveau de la préfecture de police. Faites les choses et faites-le en silence.
Voilà pour la réaction de ce policier, ce témoignage surtout. Philippe Laurent, lorsqu'on entend ce policier, ce n'est pas le premier témoignage qu'on entend dans ce ton, dans cette détresse également. Que peut-on leur répondre aujourd'hui? Vous êtes un homme politique.
Écoutez, moi je pense que d'avoir une démocratie comme la nôtre, qui ne prend pas soin de sa police, qui n'aime pas sa police de fait, c'est quand même un sujet. C'est un sujet d'inquiétude pour nous, les maires, parce que nous, sur le terrain, nous connaissons bien les policiers, nous travaillons avec eux, nos polices municipales travaillent avec la police nationale, et nous savons quel est le degré d'engagement de ces personnels dans leur mission. Donc je pense qu'il y a probablement, on ne connaît pas le détail, puisque encore une fois, il n'y a pas eu de communication de la part de la préfecture.
Ça se fera demain normalement.
Oui, mais je peux comprendre en réalité ce que dit ce policier. Je peux comprendre parce que je vois bien combien, par exemple chez moi, les policiers nationaux peuvent être réquisitionnés à tout moment pour aller encadrer des manifestations qui se passent sur Paris. Mais ce n'est pas leur métier en réalité. Donc on fait faire à des policiers, des policiers de commissariat, on leur fait faire des missions qui ne sont pas vraiment leur métier. On met des gens de la BAC à encadrer des manifestants. Ce n'est pas leur métier non plus. Ils sont là pour autre chose. Ils sont là pour lutter contre la délinquance. Donc on a un vrai sujet à la fois d'organisation. On a probablement un sujet d'effectifs. On a un sujet de moyens aussi de fonctionnement, même si des efforts ont été faits. Récemment, on a vu apparaître de nouveaux véhicules. Donc il y a eu un effort. Mais certainement, il est tout à fait insuffisant. Et puis, il y a encore une fois vraiment une question d'organisation. Et c'est notamment vrai en petite couronne parisienne.
Eddy Haïd, vous êtes le maire écologiste, je le rappelle, de Carrière sous Poissy. En toile de fond, il y a aussi le non-respect de l'homme. On le voit très bien dans le récit de ces policiers, la non-considération du policier qui est un simple matricule finalement.
Oui, en effet, être policier, c'est d'abord une vocation des hommes et des femmes qui décident de servir l'ordre républicain. Donc ça nécessite une considération et une place à part dans notre société. On ne peut pas s'étonner de ce qui se passe aujourd'hui, de l'expression de ces policiers, alors que tous les jours, on entend dire que la police est raciste, elle est violente. Non, ces hommes et ces femmes servent l'ordre républicain d'abord. Et sur le terrain, nous voyons à quel point ils ont besoin d'être accompagnés, d'être soutenus et d'être encouragés. Puis on a besoin de les repositionner clairement sur le terrain, sur les missions pour lesquelles ils sont faits, et les libérer de tous ces contrôles sanitaires qui les occupent depuis des années. En gros, depuis 2015, avec les attentats meurtriers, puis les gilets jaunes, puis les différentes manifestations, ces forces de l'ordre sont sous pression. Enfin, ces gens ont besoin d'un équilibre familial également et de retrouver une place reconnue dans la société.
Bonjour Rocco Contento, vous nous rejoignez via Skype ce matin en direct. Vous êtes porte-parole de Unité SGP Police FO Île-de-France. Merci d'être avec nous. Rocco Contento, on se connaît un peu parce que vous étiez souvent sur ces plateaux lorsque il y a eu la crise des gilets jaunes. Vous nous avez longuement raconté le travail pénible parfois de vos collègues. J'imagine qu'il y a une certaine colère en vous qui commence à monter parce que le sentiment de ne pas être écouté, ce n'est plus un sentiment, c'est une réalité.
Oui, Thomas, vous avez entièrement raison. Vous savez, c'est surtout le manque de considération de la part de la hiérarchie, de la haute hiérarchie. Nous, on a tiré le signal d'alarme depuis des années. Vous avez des services de la préfecture de police et spécifiquement à la direction de l'ordre public qui sont en souffrance psychologique intense. Et vous avez une administration, notamment un directeur, le directeur de la DOPC, qui porte une importante responsabilité, puisque nous lui avons dit les choses depuis des mois, voire des années. Les compagnies de circulation, elles étaient calibrées il y a 5 ans à 650 effectifs. Aujourd'hui, ils sont 300, avec une démultiplication des missions, avec des décalages de week-end. Ce qui veut dire que mes collègues travaillent la semaine, mais aussi le week-end. Ils sont complètement, malheureusement, déstructurés familialement. Alors, il y a des solutions. Nous, on avait proposé, par exemple, un changement de cycle horaire qui existe, qui permettait d'avoir un week-end sur deux de repos. C'est un cycle légal. Malheureusement, le directeur de la DOPC, pour l'instant, ne veut pas l'entendre. Alors, ils font tous les sourds, ils font tous les muets. Et malheureusement, vous avez ces services-là qui souffrent. 150 arrêts maladie, pas de complaisance, de réelle souffrance, et par contre une administration qui, par mesure de rétorsion, va convoquer tous mes collègues au cabinet du médecin-chef pour vérifier la véracité de ces arrêts maladie. Au lieu, finalement, de faire un pas vers mes collègues, la direction de la DOPC, le directeur, prend des mesures de rétorsion. Eh bien écoutez, il va y avoir un grand phénomène de contamination, parce que beaucoup de services sont en souffrance, vous avez les compagnies d'intervention, vous avez le commissariat de Saint-Ouen, je veux le préciser, je profite de votre antenne, avec une chef de service qui effectue un management tyrannique. Donc voilà, nous, on ne va pas en rester là, on va soutenir ces collègues-là, mais il y a urgence que la préfecture communique et trouve des solutions rapides et prenne des actes forts.
Merci beaucoup, Rocco Contento, d'avoir été avec nous dans la matinale week-end de CNews Europe 1. Et on suit bien sûr le dossier. Normalement, la préfecture devrait communiquer les chiffres officiels. Demain, nous les avons joints. Ils n'ont pas souhaité nous répondre, mais ils ont dit en tout cas qu'ils allaient communiquer les chiffres dans les prochaines heures. À Bagnolet, près de 350 personnes ont participé à une marche blanche hier en mémoire à Ibrahima, 16 ans, poignardé à mort au Lila, c'était lundi. Famille, habitants, élus étaient vêtus pour la plupart d'un t-shirt blanc arborant son portrait avec l'inscription « Plus jamais ça ». D'après une source proche de l'enquête, une rivalité territoriale entre les deux communes voisines est bien à l'origine du déclenchement de violence du meurtrier présumé, âgé de 16 ans. Il a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Écoutez cette maman dans le cortège hier.
Tous les enfants, tous les pères, les mères, les grands-pères, tout le monde est sorti pour dire que stop, ça suffit, parce qu'il y en a marre. Nos enfants, on n'a même plus le droit de les envoyer. Quand on les envoie à Romainville, Bagnolet ou Lila, Les enfants te disent maman non. Tout à l'heure. Alors pourquoi le tout à l'heure? Parce que les enfants ont peur de sortir. Parce que quand ils vont sortir, les gens vont leur demander vous habitez où? Bagnolet? Non, ici c'est pas ton territoire. T'as pas le droit de venir par là.
Philippe Laurent, ce qu'on voit encore et ce qu'on entend dans le témoignage de ses parents, il y a aussi quelque part un sentiment d'impuissance, il faut bien le dire, mais il y a aussi ces faits divers qui se répètent inlassablement sans que pour l'instant personne n'arrive à les arrêter. C'est aussi votre sentiment. Est-ce que ça vous inquiète encore une fois en votre qualité de maire qui est au quotidien en contact avec nos concitoyens ?
Bien sûr, ça nous inquiète beaucoup parce que c'est la marque d'une forme de délitement, c'est la marque d'une violence au quotidien, d'une violence gratuite souvent.
Une banalisation
de la violence que nous subissons dans toutes nos communes. Il y a des marques, alors ça ne va pas heureusement jusqu'à des actes d'une telle violence et des actes mortels, mais il y a une violence dans les paroles, dans l'attitude qui se développe de manière tout à fait inquiétante. Ça n'est pas nouveau. Ça n'est pas non plus le fait que de certains quartiers. Hein, c'est, je crois, beaucoup plus large. Alors, nous appelons évidemment à un sursaut, j'allais dire, républicain dans cette attitude. Nous appelons à la mobilisation aussi de toutes celles et tous ceux qui ont à travailler à l'éducation des enfants et des jeunes. Il n'y a pas que l'éducation nationale. Il y a évidemment les parents. Qu'il faut accompagner, parce que beaucoup de parents sont en souffrance aussi. Il y a toutes les associations, les clubs sportifs qui jouent un rôle important. Les maires sont mobilisés, les maires et leurs équipes sont mobilisés sur ces questions. Mais même notre mobilisation, parfois, ne suffit pas. Donc c'est vraiment cette maman est tout à fait à la fois touchante et je crois qu'elle dit la vérité. Et je crois qu'on sent à travers ce qu'elle dit une forme aussi de désespérance. Ouais. Il faut que nous le comprenions tous, pas seulement les élus, pas seulement les gens, les personnes en responsabilité, mais l'ensemble de nos concitoyens.
Edia Ijarbe, vous êtes le maire écologiste de Carrières-sous-Poissy. Vous faites le même constat que Philippe Laurent ce matin. Malheureusement, il y a aussi un sentiment d'impuissance.
Bien sûr, d'abord un nouveau drame et mes pensées vont à cette maman et à tous les amis de ce jeune qui malheureusement s'inscrit dans une suite d'assassinats et qui incarne une violence adolescente qui est particulièrement inquiétante aujourd'hui avec des agressions à l'arme blanche de plus en plus nombreuses et puis qui renvoie une image des quartiers, qui renvoie aux jeunes l'impression que dans leur quartier, on peut mourir au coin de la rue. Et ça, c'est inadmissible pour les maires républicains attachés au droit à l'ordre pour tous.
Les enfants ont peur de sortir, rendez-vous compte.
Mais, oui, et puis ça renvoie effectivement certes à un sentiment d'impuissance, mais ça nous renvoie nous aussi à nos propres échecs collectifs, soit de l'État et des collectivités locales. On doit apporter des réponses au plus près des quartiers et assurer aux familles le droit à leur sécurité et puis ne pas encore une fois accepter de laisser les problèmes toujours dans les mêmes quartiers. Donc il faut revenir à une action de plus grande proximité. Et je ne parle pas que de rénovation urbaine ou d'attractivité économique. Je parle de restaurer une forme d'ordre républicain, mais dans le dialogue et l'échange, en s'appuyant sur la parentalité et sur les acteurs des quartiers qui font un travail exceptionnel pour faire que notre jeunesse retrouve un espoir.
À la une, également le deuxième tour de la primaire écologiste qui se joue jusqu'à mardi. Duel entre Yannick Jadot et Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau qui pourrait bien créer la surprise. Elle assume sa radicalité et c'est justement cela qui plaît à beaucoup. Sandrine Rousseau propose un projet de rupture allant même parfois jusqu'à choquer. Qui est-elle vraiment ? Portrait de Gauthier Lebret.
En forme ?
Oui, félicitations.
Super, bravo.
Derrière le sourire et les félicitations, Sandrine Rousseau ne pense qu'à une chose, battre Yannick Jadot. À 49 ans, elle est la surprise de la primaire écologiste. Économiste antilibérale et militante féministe, elle revendique sa radicalité et son appartenance à la culture woke. Le wokisme qui vient des États-Unis et qui veut sensibiliser sur les discriminations.
Nous prenons, nous utilisons et nous jetons le corps des femmes. Nous prenons, nous utilisons et nous jetons le corps des plus précaires dans la société. Nous prenons, nous utilisons et nous jetons le corps des racisés. Nous ne voulons plus de ce système-là et c'est ça la révolution que je vous propose.
Ces propos sont souvent très commentés et puis parfois ils peuvent choquer, comme au sujet des talibans.
Non, si vraiment il y a des personnes qui sont dangereuses, des potentiels terroristes, c'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux en vrai. Donc quelque part, les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller.
Les résultats de la primaire d'Europe Écologie Les Verts seront connus mardi prochain. Les plus de 100 000 inscrits peuvent d'ores et déjà voter.
Philippe Laurent, maire UDI de Sceaux, votre sentiment lorsque vous écoutez le best-of, entre guillemets, de Madame Rousseau ces dernières semaines?
Je dirais que il me semble que parfois radicalité rime avec naïveté.
Oui.
Voilà, c'est en quelques mots.
Mmh. Eddie Haït.
Je pense que l'écologie mérite mieux quand même que les bêtises que l'on raconte en son nom. Et moi, je ne me reconnais pas en tant que maire écologique dans cette radicalité. Mais surtout, je pense que plutôt que de chercher à battre Yannick Jadot, Madame Rousseau devrait chercher à convaincre les Français que l'écologie politique peut gagner.
Justement, l'écologie punitive ne peut pas gagner. L'augmentation de l'essence, 6 à 10 centimes par an pendant 5 ans, c'est une de ses propositions.
Non, mais c'est une très mauvaise proposition. Comment convaincre les Français d'une mesure intelligente sur l'écologie si à chaque fois on les traduit devant le tribunal de l'inquisition écologique? Ça n'a pas de sens. On doit construire des politiques publiques au niveau local avec eux.
La politique, et ne manquez pas sur CNews et Europe 1 à 8h40, l'interview de Jean-Pierre Calbache. Jean-Pierre reçoit ce matin Jacques Toubon, ancien ministre et ancien défenseur des droits. Rendez-vous à 8h40, donc en direct sur l'antenne d'Europe 1 et de CNews. La colère des dentistes maintenant. Ils ne sont pas contents. Pourquoi? Parce que la caisse primaire d'assurance maladie leur réclame une partie des aides Covid versées à l'été 2020 après le premier confinement. Bonjour Pierre Schmitt, vous êtes chirurgien dentiste à Calais et secrétaire général de l'Union dentaire. Lorsque j'ai lu l'information, je me suis dit de quoi on parle. Je vous pose la question très concrètement ce matin. On vous a versé des aides et on vous dit concrètement aujourd'hui, eh bien, c'est une sorte de prêt, il faut nous rendre l'argent, c'est ça?
Ah oui, c'est tout à fait ça. On a tous reçu, enfin tous reçu, tous ceux qui sont dans ce cas, commencent à recevoir des informations de leur caisse primaire d'assurance maladie. Et enfin voilà, l'idée, c'était au début du confinement, on a été contraint de diminuer nos activités ou de les cesser totalement pour les chirurgiens dentistes, en tout cas, parce que l'État avait réquisitionné tous les matériels de protection, les masques. On a compris après pourquoi ils avaient réquisitionné nos masques, puisqu'ils n'en avaient plus. Et donc, on a été obligé de nous arrêter. Le ministre de la Santé a décidé, en toute urgence, de donner une aide sur une partie de nos charges. Hein, il ne s'agit pas de nous verser des revenus, mais de prendre en charge une partie de nos charges. On a fait des déclarations pendant le confinement, donc au mois de mars, avril, mai. Au mois de juin, il n'y a plus de confinement, on se remet à travailler. Retravailler pour nous, ça veut dire reprendre les soins hein, de nos patients, hein, on est bien d'accord. Et en fin de compte, là, maintenant, eh bien, ils décident de nous dire, bah, écoutez, vous avez retravaillé au mois de juin et au mois de juillet, donc on reprend tout ou partie des aides qu'on vous a versées l'année dernière.
Pierre Schmitt, assez rapidement, s'il vous plaît, parce que malheureusement, le temps nous manque un peu. Ça représente combien? Combien d'euros? Combien d'argent, tout ça?
Alors, ça représente déjà beaucoup en nombre de praticiens. Hein. On est entre 30 et 50% des praticiens de santé dans leur globalité et jusqu'à 50, plus de 50% chez les chirurgiens dentistes. Ça peut aller de quelques centaines à quelques milliers d'euros par praticien, sachant que les charges d'un cabinet dentaire, par exemple, c'est entre 12 et 15 000 euros par mois. Et on a touché des aides qui sont de quelques milliers d'euros et la CPAM veut les récupérer. On a pas de discours, il y a un discours de sourd avec la CPAM, donc on veut en appeler aujourd'hui au pouvoir politique et j'en appelle par votre entremise à Monsieur Castex qui ne doit pas forcément être au courant des choses. Est-ce que vous croyez, Monsieur Castex, que c'est vraiment être respectueux des professionnels de santé qui ont soigné dans des conditions difficiles les Français après le confinement? Est-ce que vous croyez que c'est juste que on soit les seuls professionnels de France à qui on reprenne les aides Covid qu'on a touchées, les petites aides Covid qu'on a touchées pendant la période de confinement?
Eh bien,
c'est
question,
totalement injuste.
La question est posée, on espère que vous allez avoir des réponses. En tout cas, vous nous tenez au courant si la situation évolue. Merci Philippe Laurent et Diaye d'être venu ce matin dans la matinale week-end CNews Europe 1. Dans quelques instants sur ce plateau, Arnaud Benedetti et Fabienne Keller. La matinale week-end revient dans quelques instants, juste après une courte pause. À tout de suite.
La matinale week-end CNews Europe 1, Thomas Lequartier.
La matinale week-end CNews Europe 1, soyez les bienvenus, il est 7h30 si vous nous rejoignez à l'instant. En ce dimanche matin, à la une de l'actualité, le mal-être au sein de l'institution police. Le syndicat Unité SGP Police dénonce l'explosion des arrêts maladie au service central de la circulation de Paris. Il serait déjà environ 150 en arrêt, des policiers qui dénoncent des conditions de travail intenables. En toile de front, souffrance, dénigrement, burn-out. La préfecture de police que nous avons joint ne confirme pas ce chiffre. Elle nous informe en revanche qu'elle communiquera d'ici à demain, lundi. Écoutez, Rocco Contento, il est justement porte-parole de Unité SGP Police FO en Ile-de-France.
Les compagnies de circulation qui ont un effectif de 300 personnels alors qu'ils étaient 650 il y a 5 ans, vous voyez, on parle d'effectifs, et bien les effectifs c'est important, et bien la corde craque puisque malheureusement vous avez des missions qui viennent s'agréger en plus pour tous ces collègues-là qui n'ont plus de week-end, qui n'ont plus de pause, qui sont contraints de travailler sur des points tout seuls, et bien ça craque et nous déplorons aujourd'hui et depuis hier 150 arrêts maladie, ce n'est qu'un début, donc je voulais dénoncer ça et surtout l'immobilisme du directeur de la direction de l'ordre public qui ne fait rien. On a tiré le signal d'alarme et cette situation, ce malaise devient vraiment intenable pour tous mes collègues.
Également à la une ce matin, en politique à Frangy-en-Bresse, Arnaud Montebourg. Après sa cuvée du redressement productif, le candidat à la présidentielle est revenu hier jouer à domicile pour bâtir sa remontada avec ses fidèles et les déçus d'une gauche qu'il ambitionne de recomposer en 2022. Dans son discours, il s'est adressé tour à tour aux travailleurs dont la gauche s'est détournée, dit-il, aux mères seules, aux jeunes CDD ou encore aux nouveaux esclaves de Uber ou encore Deliveroo, ainsi qu'aux fonctionnaires dont les salaires stagnent. On écoute Arnaud Montebourg.
Nous avons donc une remontada mondiale des salaires dans laquelle nous devons nous-mêmes nous placer. Il ne s'agit pas seulement d'augmenter le SMIC, il s'agit de prendre le travail branche par branche, de regarder partout où nous pouvons faire des efforts, avancer sans déstabiliser bien sûr les entreprises, car d'ailleurs les entreprises elles-mêmes, dans les pays les plus prospères, ce sont les endroits où les salaires sont les plus élevés. La Suisse a un SMIC 3 à 4 fois plus élevé que la France. Elle n'a pas de chômage. Sa balance commerciale est excédentaire. Pourquoi ce que nos amis Helvètes peuvent faire, nous ne le pourrions pas?
Le candidat à la présidentielle, Arnaud Montebourg. En bref, l'aéroport de l'île de La Palma, dans l'archipel espagnol des Canaries, à l'arrêt. Tout cela en raison de l'accumulation de cendres dégagées par le volcan Cumbre Vieja, en éruption depuis maintenant une semaine. La fermeture de l'aéroport a coïncidé avec l'ouverture de nouveaux foyers de lave, l'effritement aussi d'une partie du cône du volcan et une intensification globale de l'activité. En sport, en Ligue 1, très tôt réduit à 10 et mené 1-0. Lyon a fait match nul, un partout à domicile face à Lorient hier lors de la 8e journée. Lyon glisse provisoirement à la 7e place du classement. Un peu de musique, le coup d'envoi du Global Citizen Live hier aux Champs-Élysées, au Champ de Mars, plutôt à Paris. Il s'agit d'un concert live de 24 heures animé par plus de 70 artistes à travers le monde. Plus d'une quinzaine de villes mobilisées pour cet événement inédit organisé par une ONG dont l'objectif est de mettre fin à l'extrême pauvreté d'ici à 2030. Show retransmis dans une centaine de pays, à la télévision mais aussi sur les réseaux sociaux. Extrait avec Ed Sheeran sur scène hier soir. Ça fait du bien, le talent de Ed Sheeran le dimanche matin sur l'antenne de CNews et de Europe 1. La météo avec vous, Claire Delorme. Vous chantiez, je vous ai vu. Attention, attention aux orages.
Exactement, ça met de bonne humeur, mais tout de même, il va falloir rester surtout prudent dans le sud, car actuellement, on a un épisode méditerranéen qui concerne la Méditerranée. Donc, 4 départements sont d'ailleurs placés en vigilance orange, plus inondations et orages, dû justement à ces éléments météo assez forts. 130 mm ont été atteints dans le Gard, l'équivalent quand même même d'un mois de pluie en seulement quelques heures. Donc je vous invite à l'extrême prudence. Dans l'après-midi par contre, ça va se calmer puisqu'on va surtout retrouver l'instabilité encore dans l'extrême sud-est. Sinon partout ailleurs, ce sont des orages quand même un peu plus éparses. Quelques averses assez actives, mais aussi de belles éclaircies pour les plus chanceux. Et donc dans l'après-midi, forcément après le passage des orages, eh bien le mercure va quand même baisser. 23 degrés quand même tout de même. Donc pour Paris, également à Bordeaux, plus de 30 degrés attendus en Corse, mais on reste quand même au-dessus des normales de saison de 2 degrés environ.
Merci beaucoup Claire, on vous retrouve tout à l'heure dans moins d'une demi-heure. La matinale week-end, CNews Europe 1, hashtag la matinale week-end pour réagir sur l'ensemble des réseaux sociaux. Avec nous jusqu'à 8h, Arnaud Benedetti, bonjour.
Bonjour.
Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. En face de vous, il y a Fabienne Keller, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-présidente d'Agir. Merci de nous accompagner également ce dimanche matin. La politique, donc, ne parlez plus de primaire au LR, c'est déjà de l'histoire ancienne. Les Républicains désigneront finalement leur candidat à la présidentielle par un vote de leur seul adhérent. Grand soulagement de la direction du parti qui espère rallier ainsi Xavier Bertrand au processus. Elisa, vous nous avez rejoint en studio, justement les derniers sondages, ils disent quoi concernant Xavier Bertrand ?
Eh bien, ils nous disent que le président des Hauts-de-France est le candidat le mieux placé pour faire gagner son camp de l'extrême droite. En passant par la droite, de la gauche à l'extrême gauche, il se présente comme le meilleur rempart, quel que soit l'adversaire testé. Exemple, face à Emmanuel Macron, 63% des sympathisants des Républicains estiment que Xavier Bertrand est le mieux placé pour s'imposer, là où Michel Barnier et Valérie Pécresse ne convainquent que 11 et 8% de leur camp. Même plébiscite s'il est opposé à Marine Le Pen, 69% des sympathisants LR l'estiment être le plus à même de la battre. C'est 59 points de plus que Valérie Pécresse, 60 de plus que Michel Barnier. Si pour les sympathisants de droite, hein, Xavier Bertrand dispose du plus haut potentiel électoral, l'ensemble des Français est aussi de cet avis. 33% pensent qu'il est le plus à même de battre Marine Le Pen, 22 points de plus que Valérie Pécresse, 28% pour s'imposer face à Emmanuel Macron, c'est 20 points de plus que sa première concurrente. Vous le voyez d'après ce sondage, hein, dans la compétition interne qui l'oppose à Valérie Pécresse, Michel Barnier, Éric Ciotti ou Philippe Juvin, Xavier Bertrand domine largement tous ses concurrents.
Merci beaucoup Elisa Lukowski. Fabienne Keller, il ne voulait pas de primaire, il revient. Il pourrait être finalement l'homme qui peut faire gagner la droite face à Emmanuel Macron ou à d'autres candidats. Vous y croyez, vous, ou pas ?
Écoutez, ce que je constate, puisque j'étais chez LR jusqu'il y a 5 ans, c'est que la situation a considérablement changé. Il y a 5 ans, il y avait une primaire avec 4 millions de participants. Une vraie dynamique, des réflexions en cours. Là, on est sur un parti qui hésite sur la méthode, qui désignera peut-être son candidat début décembre. Et peut-être un candidat qui n'appartient pas à son propre mouvement. Donc on est dans un parti qui se cherche, qui n'a pas d'idée forte, sauf critiquer le gouvernement et le président de la République. Donc moi, je pense que c'est bien triste, mais ça ne me surprend pas. C'est pour ça qu'avec mes collègues d'Agir, la droite constructive, réunie aujourd'hui en congrès, nous avons souhaité former un parti de centre-droit, clairement positionné à droite, mais clairement républicain et clairement séparé avec une ligne rouge avec Marine Le Pen.
Arnaud Benedetti, votre sentiment à vous lorsque vous découvrez ce sondage et le retour en force de Xavier Bertrand qui voulait être à côté des Républicains, en tout cas faire le chemin tout seul et qui finalement on va peut-être devoir eh bien, les rejoindre ces Républicains, peut-être même reprendre sa carte du parti s'il veut voter.
Je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est qu'en fait les Républicains n'ont pas trouvé d'espace politique depuis 2017 et ils n'ont pas trouvé non plus une incarnation pour d'une certaine manière conduire cet espace politique et la vraie difficulté pour eux aujourd'hui, c'est de rebâtir un logiciel politique qui soit suffisamment différencié par rapport à Emmanuel Macron pour être crédible et audible dans de grands segments de l'électorat. Quant à ce sondage, en effet, il montre clairement un potentiel qui semble aujourd'hui plutôt favorable à Xavier Bertrand. Mais un potentiel ne fait pas une élection. Et si vous voulez, pour être un candidat qui soit un candidat crédible, il ne suffit pas d'être un candidat crédible par rapport finalement à une image générale que l'on peut dégager par rapport à d'autres concurrents, il faut être un candidat aussi de second tour. Moi, je me souviens, par exemple, que dans les années 80, en 1988, il y avait un candidat qui s'appelait Raymond Barre, qui était considéré comme un candidat tout à fait crédible pour battre François Mitterrand. Le problème, c'est qu'il ne suffit pas d'être un candidat en perspective d'un second tour, il faut être aussi un candidat de premier tour. Et le problème aujourd'hui auquel se confronte Xavier Bertrand, c'est que quand on regarde les études d'opinion, pour l'instant, il n'a pas tué le match. À la fois dans son camp et il ne semble pas, à ce stade, il faut être très prudent parce qu'on est encore très loin, en mesure de pouvoir passer le premier tour.
Allez, voilà pour Xavier Bertrand. En embuscade, il y a le phénomène Éric Zemmour, pas encore candidat, à 10% quand même dans les sondages. Son agenda ressemble de plus en plus à celui d'un candidat en campagne. La présidentielle, c'est en avril, nous sommes fin septembre. Jusqu'où peut-il aller? Vaste question. Voici quelques éléments ce matin avec Emma Guessel.
Pas encore candidat, déjà président pour certains. Éric Zemmour surfe sur l'ambiguïté depuis plusieurs semaines. Les rencontres avec ses partisans pour la sortie de son dernier livre ont des allures de meeting. Salle comble, succès en librairie, déjà près de 100 000 ouvrages vendus. Encore faut-il convertir ce succès populaire en succès politique. Frédéric Sinclair est politologue.
La dynamique d'Éric Zemmour va dépendre essentiellement de sa capacité à transformer l'éditorialiste qu'il est aujourd'hui en homme politique. Et là, il va falloir qu'il soit force de proposition. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Donc, il y a une inconnue. Jusqu'où Éric Zemmour peut-il aller? Aujourd'hui, on doit répondre « je ne sais pas ».
Crédité à 5% des sondages avant l'été, désormais, l'essayiste est à plus de 10% des intentions de vote. Omniprésent dans les médias, mentionné comme adversaire par les candidats eux-mêmes, Éric Zemmour se construit même une stature internationale, comme lorsqu'il est reçu en grande pompe par le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Son leitmotiv, le même depuis des années, l'immigration, l'islam et la théorie du grand remplacement.
Je pense que la France est en danger de mort puisque son peuple est en danger de remplacement par un autre peuple.
L'ambiguïté de sa candidature à la présidentielle a des limites. Le maire de Cabourg, qui organise un festival littéraire, annonce qu'Éric Zemmour ne sera finalement pas présent et dénonce un mélange des genres assez gênant.
Fabienne Keller, vice-présidente d'Agir, vous avez soufflé pendant le sujet.
J'étais moi-même en Hongrie au mois de juillet. J'ai reçu des opposants, des journalistes hongrois et polonais au Parlement européen de Strasbourg, il y a 10 jours, pour les soutenir. C'est terrifiant. D'ailleurs, M. Zemmour, si vous voulez, ne pourrait pas émerger en Hongrie. C'est un gouvernement corrompu. Il n'y a pas de liberté de la presse. Tous les médias sont contrôlés par le gouvernement. Hein. La dernière radio libre s'est éteinte en février. Il y a un peu d'expression anglophone, mais que n'entendent pas ne peuvent pas entendre et qui ne diffusent pas en Hongrie. Les juges, on n'en parle pas trop, mais les juges n'exercent plus librement. Donc vous n'avez aucun système de contre-pouvoir et de libre expression.
Donc, il joue à quoi Zemmour alors, Fabienne Keller, lorsqu'il va en Hongrie, lorsque les médias le suivent, lorsqu'on lui prête une stature internationale parce qu'il rencontre les premiers ministres?
Il joue sa partition, qui est de mettre en danger notre démocratie. C'est quand même incroyable. Il a dit « je suis l'avocat, hein, le meilleur avocat de M. Orban en France ». Mais c'est le contraire. Il devrait porter les valeurs démocratiques françaises, hein, c'est-à-dire justement les droits de l'homme, la liberté d'expression, la lutte contre l'arbitraire, hein, cet arbitraire qu'applique M. Orban. Si je peux me permettre, au lieu d'aller voir le Premier ministre, il aurait dû aller voir le peuple hongrois. Qu'en pense-t-il? Comment vit-il cette incroyable situation? Vous savez que c'est un problème en Europe, puisqu'il ne respecte plus des éléments fondamentaux qui ont constitué l'Europe, hein, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs, Montesquieu, hein, une justice, un exécutif, un législatif séparés et se contrôlant mutuellement.
Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, jusqu'où peut aller Éric Zemmour? C'est la question qu'on se pose ce matin, question à... À un million d'euros, non ?
Clairement, il y a un phénomène Zemmour depuis cette rentrée. Aujourd'hui, Zemmour, si vous voulez, il arrive à prospérer sur deux béances. Il y a un besoin de droite chez les Républicains qui n'est pas exprimé par une offre politique à l'intérieur des Républicains. Et donc, quand on regarde les études d'opinion, il grignote une partie de cet électorat. Et puis, il y a une autre béance, c'est la béance de Marine Le Pen. Le recentrage de Marine Le Pen lui fait oublier d'une certaine manière les fondamentaux historiques qui sont ceux du Rassemblement national dans sa dimension Front National de l'origine. Et Éric Zemmour est dans une tentative d'articulation, il l'a dit explicitement à plusieurs reprises, à la fois de cet électorat populaire qui se sent en déshérence et non représenté, et d'une partie de la droite bourgeoise conservatrice qui veut la réaffirmation de ses fondamentaux. Jusqu'où il peut aller, nous le verrons bien. Il faut se méfier parce qu'on a vu des candidatures parfois extrêmement, dynamiques en début de campagne ou en pré-campagne, ensuite s'essouffler.
Ça s'appelle l'effet essoufflé. Effectivement, voilà. Vous m'enlevez le mot de la bouche ce matin. Justement, Éric Zemmour sera ce matin l'invité du grand rendez-vous CNews Europe 1 Les Échos. Rendez-vous à 10h avec Sonia Mabrouk et son équipe sur l'antenne de donc CNews et Europe 1. Les sages-femmes en grève ce week-end. Elles assurent tout de même leur garde avec un badge en grève accroché sur leur blouse dans la plupart des cas. Elles réclament depuis des années une revalorisation de leur statut et la rémunération et puis aussi plus de personnel. Plusieurs mobilisations cette année ont déjà permis l'obtention d'une prime et d'une augmentation de salaire, mais c'est bel et bien insuffisant. Bonjour Éléonore Bleuzin, vous êtes secrétaire générale du Collège national des sages-femmes. Merci d'être avec nous, des sages-femmes en colère qui ont obtenu, je le disais, des primes, quelques petites revalorisations, mais on est bien loin de ce que vous réclamez. Vous dites quoi aujourd'hui? Entendez-nous enfin?
Exactement, c'est ça. Entendez-nous enfin. Ce qu'on exprime, en fait, c'est surtout qu'on ne peut plus faire notre métier dans les conditions décentes pour accompagner les femmes lors de leur accouchement en toute sécurité. Et c'est ça le problème. C'est un cri d'alerte qu'on a depuis plusieurs années. On parle de ces conditions dégradées, on parle de ce manque d'effectifs. Et là, pour le coup, c'est plus possible de continuer comme ça maintenant. Donc, vous l'avez dit, on a eu une revalorisation salariale qui est de 200 euros. Mais c'est clairement pas suffisant. Nous, ce qu'on veut, c'est juste qu'on prenne en compte, en considération notre métier, qu'on nous reconnaisse dans le système de santé. Et c'est pour ça aujourd'hui que nous sommes en grève pendant jusqu'à ce soir.
Éléonore Bleuzin, la grève, on sait, ça a ses limites parce que vous continuez, je le disais néanmoins, à travailler parce que vous êtes professionnelle. Jusqu'où êtes-vous prête à aller ?
Alors, petite nuance, parce que pour le coup, donc, dans les hôpitaux publics, les sages-femmes sont réquisitionnées, mais dans les maternités privées, les maternités sont fermées. Certaines maternités sont fermées. Il y a à peu près 60% des cabinets libéraux qui ont été fermés aussi ce week-end. Donc, il y a eu quand même un gros mouvement de la profession pour justement stopper complètement le système. Jusqu'où on ira? Bah, jusqu'à ce que le gouvernement nous entende, demande à ce qu'on ait... répondent à nos revendications, donc de plus d'effectifs, demandent à reconnaître notre statut et d'améliorer aussi la formation. Voilà vraiment les trois revendications actuellement qu'on revendique auprès du gouvernement.
Eh bien, merci à vous d'avoir été avec nous ce matin dans la matinale Weekend CNews Europe 1. Éléonore Bleuzin, secrétaire général du Collège national des sages-femmes. C'est un sujet central. Fabienne Keller, je rappelle, vous êtes vice-présidente d'Agir. On a le sentiment qu'on n'arrive pas à écouter celles et ceux qui sont là tous les jours pour nous, les pompiers, les policiers, les soignants. On les applaudit, on leur dit bravo et lorsqu'ils réclament un peu d'argent pour vivre décemment et avoir les moyens de travailler, la porte est fermée. C'est aussi votre sentiment. Est-ce que vous déplorez encore une fois?
Bien sûr, et les sages-femmes. Alors, en tant que femme, je me sens particulièrement touchée. Moi, j'ai travaillé avec elles pour qu'elles puissent, dans la loi, assurer des actes complémentaires et notamment s'occuper de contraception, puisqu'elles sont en relation avec les femmes pour les questions de maternité. De suite leur vie de femme. Il y a la question de leur rémunération. On peut rappeler qu'elles travaillent nuit et jour parce que les enfants apparaissent nuit et jour, qu'elles sont dans la création de maisons de maternité, c'est-à-dire de lieux souvent proches d'un hôpital, mais où on peut naître plus naturellement, de manière plus apaisée, moins médicalisée, avec une possibilité de secours à l'hôpital en cas de problème. Elles sont très innovantes, elles sont très proches de nous, donc oui, il faut leur donner une plus grande place, et peut-être que nous, les femmes, on a l'occasion de partager avec tous leur très grande humanité, leur souhait d'accompagner chacune.
Et on va suivre, bien sûr, leur combat avec attention. On va maintenant parler de l'actualité à l'étranger. On va s'intéresser et on va s'arrêter ce matin sur les élections en Allemagne et leurs importances pour nous, Français. Bonjour Jacques Serret.
Bonjour.
Vous nous rejoignez dans ce studio, journaliste au service politique d'Europe 1. Angela Merkel, Jacques, va quitter son fauteuil après 16 ans au pouvoir. Pourquoi ce qui se joue aujourd'hui est si important pour nous, Jacques?
Parce que c'est éminemment stratégique. On connaît le poids du couple franco-allemand en Europe. Et la stabilité de ce couple, eh bien, c'est surtout Angela Merkel qui l'incarnait. Je vous le rappelle, elle est chancelière depuis 2005, 16 ans de pouvoir. Nous, pendant tout ce temps, on a connu 4 présidents. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron. En quelque sorte, c'est une partie de l'avenir de l'Europe qui va se dessiner ce soir.
Est-ce qu'il y a des incertitudes dans ce scrutin, Jacques, ou pas?
Eh bien, à première vue, vous pourriez me dire qu'Angela Merkel est très populaire et qu'elle doit bien avoir un successeur naturel. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas si simple. Le candidat soutenu par Merkel, c'est Armin Laschet. Ils sont du même mouvement, la CDU-CSU, une force alliant l'Union chrétienne démocrate d'Allemagne et l'Union chrétienne sociale. Mmh. C'est la droite démocrate chrétienne et conservatrice, qu'on veut dire, de centre-droit. Alors Merkel ne cesse de s'afficher avec Laschet, de le soutenir publiquement. Mais non, sa victoire est loin d'être évidente.
C'est-à-dire ?
Eh bien, Armin Laschet n'est que deuxième dans les sondages, environ 22% des intentions de vote, derrière le candidat du SPD, le Parti social-démocrate de centre-gauche. Mm-hmm. Ce candidat, il s'appelle Olaf Scholz. C'est lui qui est donné gagnant par les sondeurs avec 25% des intentions de vote. En France, il est notamment soutenu par Anne Hidalgo.
Arrêtez-moi si je me trompe, Jacques, mais ce Olaf Scholz, il est ministre des Finances du gouvernement Merkel, donc ce serait loin d'être un saut dans l'inconnu, finalement, si.
Exact, mais sans rentrer dans les détails, le scrutin s'annonce tellement serré que le futur gagnant devra former une coalition à trois partis politiques. En somme, choisir des alliés pour gouverner. Et si Scholz l'emportait, qui choisirait-il ? La droite conservatrice allemande le soupçonne de vouloir s'allier à la gauche radicale. Ce serait un petit tremblement de terre outre-Rhin. Dans le même temps, si le candidat de Merkel devait gagner, il n'aurait d'autre choix que de s'allier avec les libéraux et surtout les verts, les écolos, qui pèsent lourd en Allemagne.
Jacques, est-ce qu'ici en France, on sait un peu ce qu'en pense le président Macron ?
Alors, il a vu les deux favoris.
Ouais.
Emmanuel Macron a reçu à l'Elysée Olaf Scholz le 6 septembre, Armin Laschet deux jours plus tard, mais aucun commentaire, aucune prise de position. En fait, l'Élysée veut rester discret, ne pas montrer une préférence. Il faut dire que ce serait un peu délicat à gérer si le chef de l'État soutenait l'un ou l'autre et que celui-ci perdait.
Alors, le président ne veut pas se prononcer, mais il y en a bien un quand même qui lui ressemble un peu plus au niveau des idées, non ?
Eh bien, on pourrait dire que les deux sont Macron-compatibles. Armin Laschet, centre-droit, Olaf Scholz, centre-gauche. Ouais. L'Élysée s'accommoderait des deux. Mais ce qui peut faire pencher plus la balance d'un côté ou l'autre, c'est encore une fois la question des alliances dans ce contexte très incertain. Ce que l'on sait, c'est qu'Emmanuel Macron connaît bien Olaf Scholz, celui qui n'est pas soutenu par Merkel, car Scholz, ministre des Finances, a travaillé sur le plan de relance européen défendu par Macron. Il le connaît bien, mais il le trouve un peu rigide selon son entourage.
Alors, si je vous résume un petit peu ce matin, Jacques, léger avantage pour Scholz, donc pour Macron. Mais si je comprends bien aussi, l'un ou l'autre, ça ne changerait pas grand-chose finalement. Pourquoi ce moment, cette nouvelle étape pour l'Allemagne est-il aussi importante, importe tant au président de la République ?
Thomas en parlait tout à l'heure du couple franco-allemand. Ouais. Eh bien, avec le départ de Merkel, le centre de gravité de cette relation, ce ne sera plus Berlin, non, ce sera Paris. En fait, le secret inavoué d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est de reprendre le leadership dans ce couple. Qui plus est, à un moment stratégique, nous sommes à 7 mois de la présidentielle, ça vous le savez. Mais surtout, le 1er janvier prochain, la France va prendre la présidence de l'Union européenne. Alors, c'est dans 3 mois, mais dans les faits, avec ces élections outre-Rhin, ce qui se joue pour Macron, c'est de s'installer dans le fauteuil de patron dès aujourd'hui.
Merci beaucoup, Jacques Serré du service politique d'Europe 1. Vous restez avec nous parce que j'ai posé une ou deux questions, bien sûr, à nos invités qui sont toujours avec nous sur ce plateau. Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. On le voit très bien dans ce qu'a fait Jacques Serré ce matin. C'est très intéressant tout de même ce qui se passe en Allemagne pour nous ici en France, même si parfois on l'occulte un petit peu.
Non, mais la réalité, c'est que ça fait plus de 40 ans que la relation franco-allemande depuis Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt structure finalement à la fois la politique française, notamment sur le plan économique, et structure la relation européenne. Moi, je note deux choses quand même, juste deux choses.
Rapidement.
C'est un régime parlementaire et c'est un régime stable, le régime allemand, ça c'est le premier point. Et deuxième point, la capacité des Allemands à trouver des espaces de coalition pour tout simplement mener des politiques qui sont propres à leurs intérêts.
Fabienne Keller, vice-présidente d'Agir, en quelques secondes, votre sentiment ?
Alors, nous attendons ce résultat. L'Allemagne, c'est un pays de coalition. Oui. Ils ont cette habitude qui est étrange pour nous, qui attendons le résultat droite ou gauche à chaque présidentielle. Mais évidemment, l'axe franco-allemand est le cœur de l'Europe. Pourquoi ? Parce que nous sommes différents. Moi, je vis à Strasbourg, je le vis chaque jour. Nous sommes différents. Et c'est pour cela qu'une proposition franco-allemande est un bon socle pour être étendue à toute l'Europe, comme on l'a vu sur l'achat des vaccins il y a un an, par exemple.
Merci beaucoup d'être venu dans le studio de la matinale Weekend CNews Europe 1. Jacques, on vous retrouve à 8h30 pour une information Europe 1 que vous nous communiquerez dans ce studio. La matinale Weekend revient dans quelques instants. À tout de suite.
Thomas Lequartier, Europe 1, CNews, la matinale week-end.
Il est 8h, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour la matinale week-end CNews Europe 1, de l'info, du débat, de l'analyse avec nos nombreux invités. À 8h40 tout à l'heure, ne manquez pas l'interview de Jean-Pierre Elkabbach. À 8h30, la chronique politique de Jacques Serré, sans oublier, bien sûr c'est important, la météo de votre week-end. La matinale week-end CNews Europe 1 se poursuit maintenant. Merci d'écouter Europe 1. Très bon réveil. Il est 8h. Et à la une de l'actualité ce matin, le mal-être au sein de l'institution police. Le syndicat Unité SGP Police dénonce l'explosion des arrêts maladie au service central de la circulation de Paris. Il serait déjà environ 150 en arrêt. Des policiers qui dénoncent des conditions de travail intenables. En toile de fond, souffrance, dénigrement, burn-out. La préfecture de police que nous avons joint ne confirme pas ce chiffre. Elle nous informe en revanche qu'elle communiquera d'ici à demain sur ce sujet. Écoutez le témoignage de ce policier justement en arrêt maladie.
Psychologiquement, nous sommes atteints. Cela engendre de grosses difficultés dans nos vies. Donc des conflits avec les conjoints, avec les enfants. Et nous n'avons aucune reconnaissance. Donc psychologiquement, c'est très difficile. Puis je vous parle de ça, ça fait pas seulement quelques jours, quelques semaines que ça dure, mais ça fait des années.
Un témoignage complet à suivre dans quelques instants. Également à la une ce matin, la politique. Ne parlait plus de primaire au LR, c'est déjà de l'histoire ancienne. Les Républicains désigneront finalement leur candidat à la présidentielle par un vote de leur seul adhérent. Grand soulagement de la direction du parti qui espère donc rallier ainsi Xavier Bertrand dans le processus. L'objectif, c'est bel et bien d'avoir enfin un candidat le 4 décembre prochain. Christian Jacob, que l'on écoute. Le président des Républicains.
Dès mardi, nous sommes au travail. Nous aurons un comité, un conseil stratégique qui se réunira en tant que commission des statuts pour valider le formulaire de recueil des parrainages. Et ensuite, le 6 octobre, bureau politique qui mettra en place l'instance de contrôle et puis le comité d'organisation.
Christian Jacob, le président des Républicains. En bref, les mobilisations anti-pass du samedi, 11e épisode hier, encore en baisse. Environ 63 700 manifestants, dont 7200 à Paris, ont été recensés hier à 18h par le ministère de l'Intérieur. 197 actions au total sur l'ensemble du territoire. Sur le front de la Covid-19 maintenant, promesse du chef de l'État Emmanuel Macron, la France va donner aux pays pauvres 120 millions de doses de vaccins, le double de ce qu'elle prévoyait. En Afrique, c'est à peine 3% de la population qui est vaccinée. On doit aller plus vite, plus fort, dit le président de la République. La Covid-19 toujours avec les derniers chiffres en France. La décrue des malades se poursuit à l'hôpital. 1571 patients restent hospitalisés néanmoins dans les services de soins intensifs contre près de 2300. Début septembre, la France a enregistré 29 décès au cours des dernières 24 heures. L'actualité à l'étranger. Après 16 ans à la tête de l'Allemagne, Angela Merkel s'apprête à tirer sa révérence. Les élections législatives, c'est aujourd'hui, dimanche, 30 ans de politique. 4 mandats, Jeanne Cancar vous raconte.
À 35 ans, juste après la chute du mur de Berlin, Angela Merkel entre en politique. La future chancelière gravit alors discrètement les échelons de la CDU jusqu'à la diriger en 2000. 5 ans plus tard, elle est élue à la tête de l'Allemagne. 3 ans après, la chancelière traverse sa première tempête, la crise financière mondiale. La dame de fer impose alors une politique de rigueur budgétaire au sein de l'Union européenne, au risque de plonger la Grèce dans la faillite. Mais c'est en 2015 qu'Angela Merkel prend l'une des décisions les plus importantes de sa carrière. Elle décide d'ouvrir les frontières de son pays à des centaines de milliers de réfugiés. En 2018, un an après sa réélection et alors que la crise migratoire nuit à sa popularité, elle annonce briguer son dernier mandat.
J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre.
Plus d'un an après, une crise imprévisible remonte sa cote de popularité. Pour les Allemands, Angela Merkel a géré avec rationalité la crise de la Covid-19.
Soyez rassurés, pour quelqu'un comme moi, pour qui le voyage et la liberté de circulation sont un droit durement acquis, de telles restrictions ne seront établies qu'en cas de nécessité absolue.
Alors qu'Angela Merkel s'apprête à quitter le pouvoir, 3/4 des Allemands se disent satisfaits de son action.
On revient en France avec un mot de sport. Le Paris Saint-Germain a obtenu une 8e victoire en 8 matchs de Ligue 1. C'était hier soir à domicile au Parc des Princes contre Montpellier. Victoire 2-0 sans Lionel Messi ni Marco Verratti, tous les deux ménagés à cause d'une gêne à un genou. Une victoire à 3 jours de la réception de Manchester City en Ligue des Champions. La météo avec vous, Claire Delorme. À quoi faut-il s'attendre en ce dimanche?
Un temps encore très instable et agité en raison d'un épisode Méditerranée, actuellement dans le sud. Je rappelle que 4 départements sont placés en vigilance orange, pluie, inondation et orage, avec d'importants cumuls de pluie. On a relevé par exemple à 6h du matin plus de 130 mm, que ce soit à Salindres ou encore à Colognac dans le Gard. Donc je vous invite à l'extrême prudence. Et bien évidemment, pour les températures, avec le passage des orages, et bien forcément, on a une baisse du mercure, mais tout de même 2 degrés au-dessus des normales, avec 23 degrés par exemple pour la capitale, tout comme à Bordeaux, et jusqu'à plus de 30 degrés attendus encore cet après-midi pour la Corse.
Merci beaucoup Claire, on vous retrouve dans moins d'une demi-heure, la matinale week-end CNews Europe 1 en direct. Vous pouvez réagir avec le hashtag la matinale week-end sur les réseaux sociaux. Le plateau qui m'accompagne jusqu'à 8h30 dans cette matinale week-end. Bonjour Mathieu Cuip.
Bonjour.
Vous êtes délégué général de l'Union des centristes et des écologistes, conseiller régional d'Île-de-France. Merci d'être avec nous ce matin. Guillaume Bigot, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes politologue. On en parlait dans le journal il y a quelques instants. Ce n'est pas nouveau, mais le mal-être des policiers s'intensifie dans certains services. Nous vous parlons ce matin d'un des cas bien particuliers, l'explosion des arrêts et maladies au service central de la circulation de Paris. D'après le syndicat Unité AGP Police, cela concernerait déjà 150 policiers. 150 policiers donc en arrêt maladie. Le syndicat évoque une réelle souffrance au travail, des burn-out, même des mises en danger des effectifs. Écoutez justement le témoignage d'un policier en arrêt maladie. Il témoigne pour CNews à Europe 1.
On a tiré la sonnette d'alarme, mais on n'est pas entendu. Nous avons l'impression d'être des numéros, des pions qu'on déplace. La préfecture nous emploie à leur guise. Les week-ends, lorsque nous sommes censés être avec nos familles, effectuer nos loisirs, on est rappelé. Nous n'avons plus de repos les week-ends. Il y a des TG de restriction qui tombent régulièrement, qui nous dit que ce week-end-là, nous sommes susceptibles d'être rappelés. Donc on met notre vie en suspens. On attend le coup de fil de notre gestionnaire pour nous dire si on est rappelé ou pas. Et on ne peut plus rien prévoir. On ne peut plus aller en province voir nos familles. On ne peut plus voir nos enfants, nos femmes. Et c'est insupportable. Ça devient insupportable et ça fait depuis beaucoup trop d'années que ça dure. On n'est pas écouté, tout simplement. De nos hiérarchies, on n'est pas écouté au niveau de notre directeur, au niveau de la préfecture de police. Faites les choses et faites-le en silence.
Mathieu Cuip, quel manque de considération pour nos policiers, on le voit, c'est aussi parfois vrai pour les pompiers, pour les médecins. On a un problème aujourd'hui en France, c'est celui d'écouter celles et ceux qui nous protègent au quotidien pour leur améliorer leur journée au travail. C'est ça qui est incroyable, non ?
Absolument, et là c'est vraiment un phénomène qui touche ceux qui sont en première ligne, c'est-à-dire sur le terrain. On sent qu'il y a aussi beaucoup de défiance face à leur hiérarchie, hein, la préfecture de police de Paris. On sent que le gouvernement ces derniers temps a quand même, avec le Beauvau de la sécurité, que le président de la République a annoncé à Roubaix, qu'on voit déjà hein, dans le projet de loi de finances 2022, compris qu'il y avait un vrai problème dans la police, et pas uniquement. On a entendu sur votre antenne un débat sur le cri d'alarme aussi des sages-femmes, et vous avez totalement raison, c'est comment on considère celles et ceux qui nous protègent, qui travaillent pour nous, les pompiers, les sages-femmes, les policiers. Là, évidemment, il y a un manque de moyens crucial et on en parle depuis des années.
Il y a un manque de considération. Il y a un manque de considération de l'homme,
absolue,
de la femme.
Ce qui correspond, pardon de le dire, finalement aussi à une forme d'effondrement du régalien ces dernières années, en particulier sous ce quinquennat où l'autorité républicaine, l'ordre républicain n'a pas été mis assez en exergue à tous les niveaux de l'État et on voit que ça se répercute en bout de chaîne sur celles et ceux qui nous protègent et qui sont en première ligne.
Guillaume Bigot, politologue, on voit la détresse de ces policiers. Vous avez l'habitude d'être avec nous, Guillaume Bigot, cette matinale. On leur donne souvent la parole à ces policiers. Ce n'est pas nouveau ce qu'on entend aujourd'hui, mais ça dure inlassablement. On leur répond quoi ce matin ?
Prenons un peu de recul. Un chef d'entreprise sait bien que lorsqu'il y a beaucoup d'arrêts de travail, beaucoup d'arrêts maladie, c'est un signal en fait. C'est à interpréter comme un signal de défiance vis-à-vis, entre guillemets, de la direction. Et là, la direction, elle est évidemment...
Défiance et mal-être.
Politique et mal-être, bien sûr. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des phénomènes conjoncturels et des phénomènes structurels. Conjoncturellement, on sait qu'il y a cette montée de la violence, pour ne pas dire de la... Parce qu'on n'est pas dans le... On est dans ce que j'appelle la grande inversion. C'est-à-dire qu'en fait, on a une montée de la violence contre les policiers. On appelle ça violence policière parce que de temps en temps, quelques-uns ripostent. Donc il y a ce phénomène-là de fond. Il y a eu les gilets jaunes, ne l'oublions pas. Ils ont quand même été mis à profit, et par pertes et profits parfois. Il y a eu la crise sanitaire. On les a aussi mobilisés pour des tâches qui sont vraiment pas les leurs. Ça, c'est conjoncturel. Donc, et puis, ils ne se sentent évidemment pas soutenus par leur hiérarchie. Sur le plan judiciaire, les choses n'avancent pas, ne bougent pas. Les places de prison ne sortent pas. La justice n'est pas réformée. Enfin, les magistrats ne sont pas tenus d'appliquer des peines et de sanctionner. Et de toute façon, ils n'ont pas de place de prison. Donc, dans ce contexte-là, évidemment, tout vient à se dégrader. Par ailleurs, il faut dézoomer un peu, parce que si on prend l'exemple, là j'ai vu que c'est un corps particulier de la préfecture de police qui est chargé de la circulation, eh bien il y a quelques années, ils étaient deux fois plus nombreux, 600. 600 pour faire le même job, pas le même job, pardon. Il y a plus de boulot, excusez-moi, parce qu'il y a plus d'habitants. Et là, ils sont 300, divisé par deux. Donc là, on a une politique de fond, si vous voulez, qui est... Pour tuer son chien, il faut l'accuser de la rage. Donc vous ne mettez plus les moyens dans l'hôpital public, vous ne mettez plus les moyens dans la police, vous ne mettez plus... Et qu'est-ce que vous dites ? Ah bah il faut sous-traiter maintenant, il faut privatiser. Vous avez derrière les AXA, les sociétés de sécurité qui se frottent les mains. Ce sont bien sûr les petits copains des gens qui gouvernent.
Bonjour Angelo Bruno, vous êtes secrétaire national délégué unité SGP Police Île-de-France. Merci d'être avec nous ce matin Angelo Bruno. On a très clairement compris le ras-le-bol de vos collègues sur le terrain. Méfiance, défiance vis-à-vis de la direction. J'imagine également aussi votre très grande colère de ne pas être entendu. Le résultat est là, 150 arrêts de travail, ce n'est pas anodin.
Oui, bonjour. Non, effectivement, ce n'est pas anodin et je suis très surpris aujourd'hui que la préfecture de police ne soit pas en capacité, j'ai envie de dire, de pouvoir confirmer ces chiffres. Je suis très inquiet parce que je me demande ce qu'ils font. Nous, ça fait un an qu'on dénonce, qu'on dénonce ce mal-être au niveau de ce service, mal-être grandissant, des collègues en grande difficulté, et ça ne peut plus durer, ça c'est évident.
Angelo Bruno, on parlait du manque de considération. Est-ce que vous avez clairement aujourd'hui le sentiment de ne pas être finalement même des hommes et des femmes, mais des simples matricules qui doivent rendre un travail à la fin de la journée ? Est-ce que ce manque de considération, c'est le point central de ce mal-être que vous vivez aujourd'hui au sein de la police, ou c'est plus profond ou autre chose ?
Non, bien évidemment, il y a l'aspect humain a complètement disparu du management aujourd'hui à la préfecture de police et notamment à la DOPC. Vous avez un directeur aujourd'hui qui avance seul, sans écouter les organisations syndicales. Nous, ça fait un an qu'on dénonce par voie de trac, par audience. On dit que ça va exploser et on ne nous écoute pas. Et la seule réponse aujourd'hui du directeur de la DOPC par rapport à ce mal-être, comme on le dit tout à l'heure, c'est un signal fort que les collègues donnent aujourd'hui par rapport à ce mouvement de grogne-là. Mais la seule réponse, une pression encore ce week-end en disant on va donner les chiffres. Oui, lundi, bien sûr, on va donner les chiffres lundi parce qu'on va mettre la pression ce week-end pour que les collègues y reviennent. Ben, moi, je vais profiter de votre antenne là, pour faire passer un message au directeur de la DOPC, puisqu'a priori, il est injoignable au téléphone. Lundi, nous on sera là avec les collègues et si la pression elle continue, nous aussi on va mettre la pression sur des actions très fortes au niveau de la préfecture de police. Parce qu'il faut que ça cesse et on ne lâchera pas nos collègues.
Eh bien, on va suivre bien sûr le dossier de très près dans les prochaines heures et vous nous tenez bien sûr informés si la situation évolue de votre côté. Merci à vous d'avoir été avec nous, Angelo Bruno, dans la matinale week-end CNews Europe 1 en ce dimanche. À Bagnolet, près de 350 personnes ont participé à une marche blanche hier en mémoire à Ibrahima, 16 ans, poignardé à mort au Lila, c'était lundi. Famille, habitants, élus étaient vêtus pour la plupart d'un t-shirt blanc arborant son portrait avec l'inscription « Plus jamais ça ». D'après une source proche de l'enquête, une rivalité territoriale entre les deux communes voisines est bien à l'origine du déclenchement de violence du meurtrier présumé. Âgé lui de 16 ans, il a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Écoutez cette maman dans le cortège hier.
Tous les enfants, tous les pères, les mères, les grands-pères, tout le monde est sorti pour dire que stop, ça suffit, parce qu'il y en a marre. Nos enfants, on n'a même plus le droit de les envoyer. Quand on les envoie à Romainville, Bagnolet ou Lila, les enfants te disent « Maman, non. Tout à l'heure. » Alors pourquoi le « tout à l'heure » Parce que les enfants ont peur de sortir. Parce que quand ils vont sortir, les gens vont leur demander « Vous habitez où ?» Bagnolet, non, ici c'est pas ton territoire. T'as pas le droit de venir par là.
Voilà pour ce témoignage. La politique maintenant, ne parlez plus de primaire au LR, c'est déjà de l'histoire ancienne. Les Républicains désigneront finalement leur candidat à la présidentielle par un vote de leur seul adhérent, grand soulagement de la direction du parti et qui espère ainsi rallier Xavier Bertrand au processus. Elisa, vous êtes avec nous dans ce studio. Justement, les derniers sondages, ils disent quoi concernant Xavier Bertrand ?
Eh bien, ils nous disent que le président des Hauts-de-France est le candidat le mieux placé pour faire gagner son camp. De l'extrême droite, en passant par la droite et jusqu'à la gauche et l'extrême gauche, il se présente comme le meilleur rempart, quel que soit l'adversaire testé. Exemple, face à Emmanuel Macron, 63% des sympathisants des Républicains estiment que Xavier Bertrand est le mieux placé pour s'imposer, là où Michel Barnier et Valérie Pécresse ne convainquent que 11 et 8% de leur camp. Même plébiscite s'il est opposé à Marine Le Pen. 69% des sympathisants Les Républicains l'estiment être le plus à même de la battre. C'est 59 points de plus que Valérie Pécresse, 60 de plus que Michel Barnier. Si pour les sympathisants de droite, Xavier Bertrand dispose du plus haut potentiel électoral, l'ensemble des Français est également du même avis. 33% pensent qu'il est le plus à même de battre Marine Le Pen, 22 points de plus que Valérie Pécresse, 28% pour s'imposer face à Emmanuel Macron, 20 points de plus que sa première poursuivante. Vous le voyez, d'après ce sondage, dans la compétition interne qui l'oppose à Valérie Pécresse, Michel Barnier, Éric Ciotti et Philippe Juvin, Xavier Bertrand domine largement ses concurrents.
Merci beaucoup Elisa. Mathieu Cuib, je rappelle, vous êtes délégué général de l'Union des centristes et des écologistes. C'est l'homme providentiel, Xavier Bertrand, finalement.
Les adhérents des Républicains auront à se prononcer sur cette question. En tout cas, Valérie Pécresse, elle, participera évidemment à ce processus de désignation interne. On peut quand même regretter une chose, c'est que le parti a décidé, au fond, d'avoir quelque chose qui soit assez étriqué. Ouais. Le candidat de la droite française, c'est-à-dire le potentiel successeur à Jacques Chirac, à Nicolas Sarkozy, au général de Gaulle, va être désigné par moins de 100 000 adhérents. Est-ce qu'on avait finalement peur de la Vox Populi? Je rappelle que la dernière primaire de 2016, c'est 4 millions de Français qui sont venus participer à la primaire de la droite.
D'accord,
et du centre.
Mais vous avez peur, Mathieu Cuip, parce que dans cette hypothèse, cette circonstance-là qui a été actée hier par les LR, Xavier Bertrand est du coup très grand favori.
Pour l'instant, il n'a pas dit qu'il serait candidat et nous, on attend qu'il rentre dans le jeu. Pour l'instant, on a entendu depuis plusieurs mois Xavier Bertrand dire qu'il n'irait ni dans un congrès ni dans une primaire. On attend de voir ce qu'il va dire pour savoir s'il rentre dans le jeu collectif. Nous sommes dans le jeu collectif. Alors, et on se plie aux règles de l'interne du mouvement.
Justement, Guillaume Bigot, politologue, est-ce qu'il a intérêt se mettre dans le rang, Xavier Bertrand, et de participer à tout cela pour être légitime et pouvoir peut-être remporter un jour cette présidentielle?
Alors la question que vous me posez, c'est est-ce que finalement Xavier Bertrand a intérêt à jouer
le jeu?
C'est-à-dire c'est plus qu'un jeu, c'est une sorte d'organisation faite pour confirmer ce que les sondages montrent, c'est-à-dire qu'elle est mieux placée que Valérie Pécresse.
Exactement.
Parce que ça a été dit d'abord par le président de LR, par l'état-major de LR, nous prendrons celui qui est le mieux placé dans les sondages. Et celui qui est le mieux placé dans les sondages, il n'y a pas eu de creusement d'écart entre, disons, le plan A, le plan B, le plan C, etc. Voilà. Donc, il va effectivement être intronisé. Donc, on a bien compris que ceux qui voulaient, finalement, dis-moi quel genre de primaire tu veux et je te dirai quel candidat tu soutiens. Si tu veux quelque chose qui soit désigné par le Congrès, c'est forcément Xavier Bertrand. Et si tu veux une primaire plus large, c'est forcément Valérie Pécresse, parce que ça lui donnait une possibilité d'agir. Maintenant, il faut dire une chose importante. D'abord, moi, je serais... Alors, je pense que je vais finir par être embauché comme... directeur de la communication du JDD, parce que je crois que c'était extrait du JDD, ce qu'on a dit tout à l'heure. Bon. Alors, quand c'est extrait du JDD, et que ça dit du bien de Xavier Bertrand, concurrent d'Emmanuel Macron, sachant que le JDD est la Pravda d'Emmanuel Macron, moi, je serais Xavier Bertrand, je serais quand même inquiet de que le JDD dise du bien de moi. Ce qui veut dire qu'à l'Élysée, grosso modo, on a quand même beaucoup moins peur de moi qu'à l'époque, souvenez-vous, des municipales, où il fallait envoyer tous les cadors de la Macronie pour faire tomber Xavier Bertrand. Cette séquence n'est plus réussie. Et bien sûr, la présidence de la République a très bien compris de manière stratégique que maintenant sort un candidat de la boîte qui n'est pas encore candidat, etc. Bon moi, en résumé, ce qu'on peut dire, c'est que les LR, ils ont deux plans. Ils ont toujours un plan A et toujours un plan B. Le plan A, c'est bien sûr M. Xavier Bertrand, qui aurait pu être ministre de M. Macron. Et deuxièmement, ils ont un plan B. C'est-à-dire que si ce candidat-là ne décolle pas, eh bien, ils auront Emmanuel Macron.
Et
je pense que les électeurs préfèrent toujours l'original à la copie, donc sans doute M. Macron à M. Bertrand.
Et on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Guillaume Bigot, pour cette analyse ce matin. À la une, également le deuxième tour de la primaire écologiste qui se joue jusqu'à mardi. Duel entre Yannick Jadot et Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau qui pourrait bien créer la surprise. Elle assume sa radicalité et c'est justement cela qui plaît à beaucoup. Sandrine Rousseau propose un projet de rupture, allant même parfois jusqu'à choquer. Qui est-elle vraiment? Voici quelques éléments avec Gauthier Lebret.
Bonjour.
Ah oui, félicitations.
Bon, super. Bravo.
Derrière le sourire et les félicitations, Sandrine Rousseau ne pense qu'à une chose, battre Yannick Jadot. À 49 ans, elle est la surprise de la primaire écologiste. Économiste antilibérale et militante féministe, elle revendique sa radicalité et son appartenance à la culture woke. Le wokisme qui vient des États-Unis et qui veut sensibiliser sur les discriminations.
Nous prenons, nous utilisons et nous jetons le corps des femmes. Nous prenons, nous utilisons et nous jetons le corps des plus précaires dans la société. Nous prenons, nous utilisons et nous jetons le corps des racisés. Nous ne voulons plus de ce système-là et c'est ça la révolution que je vous propose.
Ces propos sont souvent très commentés et puis parfois ils peuvent choquer, comme au sujet des talibans.
Si vraiment il y a des personnes qui sont dangereuses, des potentiels terroristes, c'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux en vrai. Donc quelque part les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller.
Les résultats de la primaire d'Europe Écologie Les Verts seront connus mardi prochain. Les plus de 100 000 inscrits peuvent d'ores et déjà voter.
Mathieu Cuip, délégué général de l'Union des centristes et des écologistes. Vous m'avez dit pendant le sujet, parce que je suis très transparent dans ce studio, je veux réagir.
Non mais je pense que là, vraiment, dans ce qu'on vient d'entendre et dans tout ce qu'on a entendu dans le cadre des débats de la primaire, honnêtement, c'est la symbolique de ce qu'est devenu Europe Écologie Les Verts pour une grande partie de ses adhérents
et
de ses
cadres. On n'a pas mis l'augmentation de l'essence de 10 centimes par an pendant 5 ans.
Bien sûr, et encore, ce serait le seul moment où ils ont parlé d'écologie. Aujourd'hui, on est sur punitive. 95%, bien sûr, punitif, c'est le logiciel du mouvement, mais pour autant, 95%. 15% c'est devenu du sociétal, les LGBTQIA, le transgenre, le transhumanisme, déconstruire les hommes, déconstruire la décroissance, etc. À un moment, je crois qu'il faut que la droite et le centre reprennent le sujet. L'écologie est devenue trop sérieuse aujourd'hui, vu les défis qui nous attendent, pour laisser le débat, le sujet et l'action au wokisme et à ses guignols politiques. Et
Guillaume Bigot, politologue, lorsque je dis que Sophia Rousseau, rapidement s'il vous plaît Guillaume, pourrait bien créer la surprise, j'ai raison ou pas ?
Oui, je pense que vous avez raison. Je pense que vous avez raison parce que... Finalement, moi, je pense que cette femme qui a déjà à la base, à mon avis, des idées assez radicales, comme Madame Coffin, qui aurait pu être son substitut étroit, comme diraient les économistes, elle est radicale, mais elle a aussi compris que, en se lançant dans une stratégie de la provocation, de dire des choses les plus énormes les unes que les autres, proférant des inepties toujours en allant plus loin, eh bien, elle crée un buzz. Elle crée un buzz contre, mais elle crée un buzz pour, et elle crée finalement, elle se met au centre du jeu. C'est exactement ce que faisait Jean-Marie Le Pen. Elle est à l'écologie, ce que Jean-Marie Le Pen était à la droite, et elle est surtout à la politique, ce que l'art contemporain est à l'art, c'est-à-dire c'est plus du tout de l'art, c'est plus du tout de la politique, c'est un militantisme qui vise à faire du buzz.
Et elle mobilise surtout les électeurs EELV, genuines, ceux qui sont au cœur du mouvement et qui sont maintenant sur ces thèses-là.
Parce que ces gens-là, finalement, ce qui les intéresse, c'est de ne pas être assimilés au commun des mortels. Je crois que c'est ça qui les intéresse.
Voilà donc pour Sandrine Rousseau face à Yannick Jadot, la réponse qui parviendra à remporter la primaire, ce sera mardi, puisqu'on peut voter jusqu'à mardi. Suspense. La politique, c'est également le grand rendez-vous. CNews Europe 1, les échos à suivre à 10h sur l'antenne d'Europe 1 et CNews. Bonjour Sonia Mabrouk, on vous retrouve ce matin dans les locaux, dans le studio du grand rendez-vous. Invité ce matin, ce sera Éric Zemmour. Sonia, sur quel thème allez-vous l'interroger ?
Bonjour Thomas, bonjour à tous. Effectivement, notre invité Éric Zemmour. Nous allons tout d'abord l'interroger sur son diagnostic. Identité, histoire, islam. On va tout simplement confronter son diagnostic, ses idées, à la réalité, à leur traduction concrète.
Sonia, quel est l'objectif global de l'émission à suivre à 10h sur CNews Europe 1 ?
Eh bien, l'objectif, Thomas, tout simplement, c'est de savoir qu'incarne vraiment Éric Zemmour. Est-ce que c'est la France du sursaut ou la France du repli ? Est-ce un renouveau ou est-ce une défaite maquillée en insurrection pour aller droit au but ? Est-ce qu'il craint une guerre civile ou est-ce qu'il souffle au contraire sur les braises d'un tel affrontement ? Voilà l'objectif ce matin du grand rendez-vous européen CNews Les Échos.
Et rendez-vous à 10h avec vous, Sonia Mabrouk. Merci et à tout à l'heure. Donc, merci d'avoir été avec nous, Mathieu Cuip, dans la matinale week-end CNews Europe 1. Guillaume Bigot également, vous restez sur ce plateau. On revient dans quelques instants. Il est 8h24.
La matinale week-end, CNews Europe 1, Thomas Le Quartier.
Attention. La matinale week-end, CNews Europe 1 en direct, il est 8h30 en ce dimanche matin. Si vous nous rejoignez à la une de l'actualité, le mal-être au sein de l'institution police, le syndicat Unité SGP dénonce l'explosion des arrêts maladie au service central de la circulation de Paris. Il serait déjà environ 150 en arrêt, des policiers qui dénoncent des conditions de travail intenables. En toile de fond, souffrance, dénigrement, burn-out. La préfecture de police de Paris que nous avons joint ne confirme pas ce chiffre. Elle nous informe en revanche qu'elle va communiquer d'ici à demain sur ce dossier. Écoutez Rocco Contento, le porte-parole de Unité SGP Police Île-de-France.
Mes collègues travaillent la semaine, mais aussi le week-end. Ils sont complètement, malheureusement, déstructurés familialement. Alors, il y a des solutions. Nous, on avait proposé, par exemple, un changement de cycle horaire qui existe, qui permettait d'avoir un week-end sur deux de repos. C'est un cycle légal. Malheureusement, Le directeur de la DOPC, pour l'instant, ne veut pas l'entendre. Alors, ils font tous les sourds, ils font tous les muets. Et malheureusement, vous avez ces services-là qui souffrent. 150 arrêts maladie, pas de complaisance, de réelle souffrance. Et par contre, une administration qui, par mesure de rétorsion, va convoquer tous mes collègues au cabinet du médecin-chef pour vérifier la véracité de ces arrêts maladie. Au lieu, finalement, de faire un pas vers mes collègues, la direction de la DOPC, le directeur, prend des mesures de rétorsion. Eh bien, écoutez, il va y avoir un grand phénomène de contamination.
Rocco Contento de SGP Police à Frangy-en-Bresse. Arnaud Montebourg, après sa cuvée du redressement productif, le candidat à la présidentielle est revenu hier jouer à domicile pour bâtir sa remontada avec ses fidèles et les déçus d'une gauche qu'il ambitionne de recomposer pour 2022, pour le citer. Dans son discours, il s'est adressé tour à tour aux travailleurs dont la gauche s'est détournée, aux mères seules, aux jeunes CDD ou encore aux nouveaux esclaves de Uber et Deliveroo, ainsi qu'aux fonctionnaires dont les salaires stagne. On écoute le candidat à la présidentielle.
Nous avons donc une remontada mondiale des salaires dans laquelle nous devons nous-mêmes nous placer. Il ne s'agit pas seulement d'augmenter le SMIC, il s'agit de prendre le travail branche par branche, de regarder partout où nous pouvons faire des efforts, avancer sans déstabiliser bien sûr les entreprises, car d'ailleurs les entreprises elles-mêmes, dans les pays les plus prospères, ce sont les endroits où les salaires sont les plus élevés. La Suisse a un SMIC 3 à 4 fois plus élevé que la France. Elle n'a pas de chômage. Sa balance commerciale est excédentaire. Pourquoi ce que nos amis helvètes peuvent faire, nous ne le pourrions pas?
En bref, l'aéroport de l'île de La Palma, dans l'archipel espagnol des Canaries, à l'arrêt. Tout cela en raison de l'accumulation de cendres dégagées par le volcan Cumbre Vieja, en éruption depuis maintenant une semaine. La fermeture de l'aéroport a coïncidé avec l'ouverture de nouveaux foyers de lave, l'effritement aussi d'une partie du cône du volcan et une intensification globale de l'activité volcanique. En sport, en France, en Ligue 1, très tôt réduit à 10 et mené à 1-0. Lyon a fait match nul, un partout à domicile face à Lorient hier. Lors de la 8e journée, Lyon glisse provisoirement à la 7e place du classement. La météo avec vous, Claire Delorme. À quoi faut-il s'attendre en ce dimanche?
Un temps encore bien instable et agité, surtout dû à cet épisode méditerranéen. Donc dans le sud, trois départements sont maintenant placés en vigilance orange pluie, inondation, orage. Il s'agit donc de l'Ardèche, du Gard, mais aussi de la Drôme. Donc je vous invite à l'extrême prudence. Et donc pour l'après-midi, on va surtout retrouver donc de l'instabilité dans l'extrême sud-est, alors que partout ailleurs, ce sera une alternance de passages nuageux avec quelques averses orageuses, mais aussi quelques timides éclaircies. Et pour les températures, forcément, ça baisse sous les orages. 23 degrés pour la capitale, 20 degrés à Brest et plus de 30 degrés encore attendus en Corse.
Merci Claire, ne manquez pas sur CNews et Europe 1 à 8h40 l'interview de Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre reçoit ce matin Jacques Toubon, ancien ministre et ancien défenseur des droits. Rendez-vous donc à 8h40 dans quelques toutes petites minutes. Jacques Serret nous rejoint sur ce plateau, journaliste au service politique d'Europe 1. Information justement Europe 1 que vous nous livrez ce matin, Jacques. Le couple présidentiel Emmanuel Macron et Brigitte Macron donc ont porté plainte il y a quelques jours contre un paparazzi.
Oui, plainte pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Et le photographe visé n'est pas un inconnu, en tout cas de la part du couple Macron. Il s'appelle Thibaut Dalifard.
Ouais, ça me dit quelque chose, ça, non?
Oui, souvenez-vous, ouais. En 2017, premier été, première vacances pour le couple Macron après l'accès au pouvoir. Et alors qu'il passait quelques jours de repos à Marseille, ce paparazzi, c'était, selon l'Élysée, introduit à l'intérieur même de l'enceinte de la résidence du couple Macron. Ni deux, à l'époque, Emmanuel Macron avait porté plainte pour harcèlement et tentative d'atteinte à la vie privée. Le photographe avait alors passé 6 heures en garde à vue, ça avait fait beaucoup de bruit. Finalement, le chef de l'État avait dit retirer sa plainte dans un souci d'apaisement. En fait, la plainte avait été classée sans suite.
Et donc, Jacques, qu'est-ce qui s'est passé de plus avec ce photographe donc?
Eh bien, c'est très surprenant, Thomas. En fait, il ne s'agit pas de nouvelles paparazzades, comme on l'a vu encore cette semaine avec Éric Zemmour. Non, il s'agit d'une exposition.
D'accord, une expo photo, c'est ça?
Oui, il y a un peu plus de 2 semaines, le 8 septembre, a ouvert une nouvelle exposition photo, figurez-vous, juste en face de l'Élysée, de l'autre côté de la rue du Faubourg Saint-Honoré.
Provocation.
2500 m² de galerie avec des tableaux, des statues et cette nouvelle exposition photo pour le moins étonnante sur le thème des paparazzades de stars et de présidents. là en vitrine sur le trottoir à 10 mètres à peine hein, du portail du château. On pouvait y voir Nicolas Sarkozy et Carla Bruni en train de se baigner, Nicolas Sarkozy en photo à vélo, François Hollande torse nu à la plage, tout comme Jacques Chirac d'ailleurs. Et puis enfin, et c'est le cœur du problème, Emmanuel Macron en jet ski, en maillot de bain, torse nu. Cette photo, elle date de l'année dernière. Mmh. Tout le monde ou presque a pu la voir dans la presse People à l'époque.
Mais alors pourquoi cette plainte aujourd'hui, Jacques ?
Eh bien voilà, ces photos d'Emmanuel et Brigitte Macron exposées en face de l'Élysée, eh bien ça n'a pas plu, mais alors pas du tout. Car cette exposition a duré 15 jours durant lesquels le couple Macron passait systématiquement devant, en entrant et en sortant de l'Élysée. Et il faut croire que cette exposition-là, à cet endroit du pouvoir, a été vue comme une provocation, qui plus est quand l'auteur de ces photos est toujours ce même Thibaut Dalifard. Voilà pourquoi, selon nos informations, Emmanuel et Brigitte Macron ont porté plainte pour atteinte à l'intimité de la vie privée.
Ça veut dire, Jacques, qu'il y a une enquête, qu'il y a des auditions ?
Il y a une enquête, des auditions. L'organisateur de l'exposition a été entendu pendant 2h30 par la police en début de semaine. Et l'auteur des photos, le paparazzi, est convoqué mardi par la police dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris pour atteinte à l'intimité de la vie privée du couple présidentiel. Et selon nos informations, pour entendre justement ce paparazzi, deux policiers de la brigade de répression de la délinquance contre la personne s'apprêtent à prendre la route vers Saint-Tropez, là où il réside.
Ah, quand même.
Un président qui porte plainte pour ce motif, c'est rarissime.
Bien sûr.
Pas sûr que tout ça améliore les relations du couple Macron avec les paparazzi à 7 mois de la présidentielle.
Ouais. Affaire à suivre, comme on dit. Merci beaucoup, Jacques Serret. Merci, Mathieu Guip, d'avoir été avec nous ce matin dans la matinale Week-end CNews Europe 1. Guillaume Bigot, on vous retrouvera sur ce plateau, dans ce studio, à 9h. Dans quelques instants, ne manquez pas l'interview de Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre reçoit Jacques Toubon, ancien ministre et ancien défenseur des droits. C'est dans quelques instants, 8h37. Vous écoutez Europe 1, vous regardez CNews.
Thomas Lequartier, Europe 1, CNews, la matinale week-end.
Dans quelques instants, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach sur CNews et Europe 1. Jacques Toubon, ancien ministre et ancien défenseur des droits, ce sera à suivre dans quelques toutes petites secondes. D'abord, le phénomène Éric Zemmour, pas encore candidat, à 10% dans les sondages. Son agenda ressemble de plus en plus à celui d'un candidat en campagne. La présidentielle, c'est en avril, nous sommes fin septembre. Jusqu'où peut-il aller ? Vaste question, voici quelques éléments de réponse avec Emma Guessel.
Pas encore candidat, déjà président pour certains. Éric Zemmour surfe sur l'ambiguïté depuis plusieurs semaines. Les rencontres avec ses partisans pour la sortie de son dernier livre ont des allures de meeting. Salle comble, succès en librairie, déjà près de 100 000 ouvrages vendus. Encore faut-il convertir ce succès populaire en succès politique. Frédéric Sinclair est politologue.
La dynamique d'Éric Zemmour va dépendre essentiellement de sa capacité à transformer l'éditorialiste qu'il est aujourd'hui en homme politique. Et là, il va falloir qu'il soit force de proposition. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Donc, il y a une inconnue. Jusqu'où Éric Zemmour peut-il aller ? Aujourd'hui, on doit répondre « je ne sais pas ».
Crédité à 5% des sondages avant l'été, désormais, l'essayiste est à plus de 10% des intentions de vote. Omniprésent dans les médias, mentionné comme adversaire par les candidats eux-mêmes, Éric Zemmour se construit même une stature internationale, comme lorsqu'il est reçu en grande pompe par le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Son leitmotiv, le même depuis des années, l'immigration, l'islam et la théorie du grand remplacement.
Je pense que la France est en danger de mort puisque elle est son peuple est en danger de remplacement par un autre peuple.
L'ambiguïté de sa candidature à la présidentielle a des limites. Le maire de Cabourg, qui organise un festival littéraire, annonce qu'Éric Zemmour ne sera finalement pas présent et dénonce un mélange des genres assez gênant.
Mathieu Cuip, délégué général de l'Union des centristes et des écologistes. Jusqu'où peut aller Éric Zemmour ? On parle d'un phénomène Zemmour. Moi, j'ai tendance à dire parfois, lorsqu'il y a phénomène, attention à l'effet soufflé. Est-ce que vous me rejoignez sur ce constat ?
Oui, absolument. Et puis, il a quand même face à lui Marine Le Pen. On ne sait toujours pas d'ailleurs si Éric Zemmour est candidat. Et moi, je pense que Marine Le Pen, elle est certes dans une mauvaise passe, mais capable totalement de redresser la barre. D'abord parce qu'elle a cette expérience, c'est quand même sa troisième campagne, qu'elle a, elle le dit elle-même, le calme des vieilles troupes, et que la cristallisation de la campagne, le débat qu'elle est en train d'organiser avec Emmanuel Macron, en réalité, parce qu'ils sont les meilleurs adversaires, c'est d'ailleurs expliqué dans un très bon livre de vos confrères du Figaro, Le Tango des Fossoyeurs, qui montre bien que ce duel Macron-Le Pen va de toute façon, par une cristallisation, se jouer en réalité en janvier. Par ailleurs, sur Macron, présidence française de l'Union européenne à partir de janvier, qui va mettre encore en exergue la division entre mondialistes et nationaux, comment Éric Zemmour existe là-dedans? On le voit sur les sujets immigration. Quelle est son offre aujourd'hui sociétale, économique, etc.? On ne le sait pas. Il répondra peut-être d'ailleurs à 10h sur votre antenne tout à l'heure.
Oui, effectivement, avec Sonia Mabrouk, le grand rendez-vous CNews, Europe 1, Les Échos. Guillaume Bigot, politologue, l'homme des 10%, il est caractérisé aujourd'hui par Éric Zemmour, qui n'est pas encore candidat à la présidentielle. Lorsqu'il se déclare candidat, peut-être dans les prochains jours ou prochaines semaines, ça peut monter en flèche les 10%? Ça peut se stabiliser? Ça peut même descendre? Est-ce qu'il y a un effet « je me présente à la présidentielle » ?
Non, ça ne peut que, en réalité, ça ne peut que monter sans prendre parti. Pourquoi ? Parce que sans être candidat à avoir déjà 10%, face à des gens qui sont dans le circuit, qui sont des professionnels de l'État, qui sont là depuis 30 ans, qui ne font que ça et qui arrivent à peine à ce seuil, on voit que l'engagement ne va pas décevoir, disons, les fans, les lecteurs, le petit noyau, et peut entraîner des gens qui se disent « mais finalement, il n'est pas candidat ouais. ». Donc comment se prononcer pour quelqu'un qui ne s'est pas encore prononcé lui-même, vous voyez ? En revanche, je pense qu'il a deux lignes de crête. Parce que ce qui fait sa force fait sa faiblesse sur ces deux lignes de crête. La première ligne de crête est très simple. C'est qu'en fait, c'est sa sincérité et sa radicalité qui font sa force. Et notamment sur une question qui est l'éléphant dans la pièce. Parce que moi, je ne pense pas qu'il y ait de grand remplacement, mais je pense qu'il y a une grande inversion. Je pense que la violence policière, c'est la violence contre les policiers. Je pense que le racisme et la haine ne sont pas du tout des racismes et la haine dirigés contre les Maghrébins ou les Français d'origine africaine. Ce sont le racisme et la haine d'une partie des Maghrébins et des Africains contre les Français. Ça, tout le monde le voit, mais personne n'ose le dire. Et lui, il s'en fiche, il le dit. Or, c'est d'une certaine façon ce qui fait sa force. Mais attention, et il a commencé peut-être dans le dernier débat, j'ai noté ça de manière intéressante, à se déradicalisé, c'est-à-dire il a commencé à distinguer de manière à mon avis très intelligente l'islam, comme vous le savez qu'il assimile totalement à l'islamisme, et les musulmans, en disant il y a des millions de musulmans en France, ce qui est vrai, qui ne sont pas, disons, dans un islam offensif. Et il a commencé, mais il faudrait qu'il aille plus loin, à distinguer entre un islam, disons, ce qu'il appelle au repos, enfin c'est pas lui d'ailleurs, c'est un auteur, et l'islam offensif. Et il faut effectivement, s'il veut aller au bout de sa démarche, dire qu'il y a un islam au repos qui ne pose pas de problème. Et enfin, sur le deuxième point de cette deuxième ligne de crête, si vous voulez, c'est dans la forme, c'est le fait que finalement, ce n'est pas un politicien traditionnel, donc il casse les codes, mais il va falloir quand même un peu qu'il les adopte.
Ouais, Mathieu Cuip, délégué général de l'Union des centristes et des écologistes, pardon.
Ouais, sur ce que dit Guillaume Bigot, c'est très juste, on l'a senti se recentrer un peu, entre guillemets, ces derniers jours, parce que probablement, il voit bien que faire Cassandre n'est quand même pas une finalité politique.
Il y a Cassandre, voilà.
Oui, c'est ça, et que les Français, qui aujourd'hui peuvent sembler pour part intéressés par la démarche Éric Zemmour, ont besoin aussi de perspectives heureuses, des jours heureux. Ça, Emmanuel Macron l'a bien compris, et Marine Le Pen aussi d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que pour cet électorat-là, aujourd'hui, c'est qui est en capacité de battre Emmanuel Macron ? C'est pas encore Éric Zemmour.
Sa langue de feu brûle la langue de bois, j'ai déjà dit ça, mais finalement, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'est pas dans un discours bidon formaté où, allez, on rassemble pour rassembler, alors qu'on voit bien qu'il y a de la division dans la réalité. Mais il faut tout de même qu'il donne un espoir, qu'il soulève un enthousiasme, et là, on est assez loin du compte encore.
On cherche beaucoup hein, ces derniers temps, finalement, des espoirs. On l'a vu pendant les européennes, il y avait le général de Villiers, il y a eu l'idée d'une liste gilets jaunes, etc., etc. Et pour le coup, dans d'autres élections présidentielles, on pense notamment à Jean-Pierre Chevènement, le phénomène a existé, va-t-il se reproduire ? Réponse dans les mois qui viennent.
Effectivement, affaire à suivre de très près, Éric Zemmour qui sera donc à 10h sur l'antenne d'Europe 1, si nous vous écoutons, dans le grand rendez-vous avec Sonia Mabrouk, vous avez compris. À la une également, toujours en politique, le deuxième tour de la primaire écologiste qui se joue jusqu'à mardi. Duel entre Yannick Jadot et Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau qui pourrait bien créer la surprise, c'est vrai. Elle assume sa radicalité et c'est justement cela qui plaît à beaucoup. Sandrine Rousseau propose un projet de rupture, allant même parfois jusqu'à choquer. Qui est-elle vraiment ? Voici quelques éléments, en tout cas, avec Gauthier Lebray.
En forme ?
Oui, félicitations.
Super, bravo.
Derrière le sourire et les félicitations, Sandrine Rousseau ne pense qu'à une chose, battre Yannick Jadot. À 49 ans, elle est la surprise de la primaire écologiste. Économiste antilibérale et militante féministe, elle revendique sa radicalité et son appartenance à la culture woke. Le wokisme qui vient des États-Unis et qui veut sensibiliser sur les discriminations.
Nous prenons, nous utilisons et nous jetons le corps des femmes. Nous prenons, nous utilisons et nous jetons le corps des plus précaires dans la société. Nous prenons, nous utilisons et nous jetons le corps des racisés. Nous ne voulons plus de ce système-là et c'est ça la révolution que je vous propose.
Ces propos sont souvent très commentés et puis parfois ils peuvent choquer, comme au sujet des talibans.
Si vraiment il y a des personnes qui sont dangereuses, des potentiels terroristes, c'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux en vrai. Donc quelque part, les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller.
Les résultats de la primaire d'Europe Écologie Les Verts seront connus mardi prochain. Les plus de 100 000 inscrits peuvent d'ores et déjà voter.
Mathieu Cuif, je me tourne vers vous parce que vous êtes délégué général de l'Union des Centristes et des Écologistes. Il y a l'écologie, les écologistes, il y a Europe Écologie Les Verts, il y a l'écologie punitive. On se situe où, Alexandrine Rousseau ?
On se situe dans l'extrême gauche. On est dans la gauche de la gauche, on est dans le sociétal et on n'est pas du tout dans l'écologie. D'ailleurs, Sandrine Rousseau, elle a fait toute sa campagne sur la thématique sociétale. On a parlé des transgenres, on a parlé des migrants, on a parlé des LGBTQI+, on a parlé de l'écoféminisme, mais j'ai surtout entendu féminisme, mais pas beaucoup d'écologie. Et d'ailleurs, dans tous les débats qui ont eu lieu ces dernières semaines entre les candidats, on ne les a, notamment Sandrine Rousseau, quasiment pas entendu parler de ce que, au fond, intéresse aujourd'hui les Français, c'est-à-dire le sujet environnemental, la biodiversité, la transition énergétique, quel avenir on prépare, au fond, à nos enfants. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est ce qui attend, c'est ce que l'opinion publique attend, pas les débats woke qui visiblement, ont le vent en poupe aujourd'hui chez Europe Écologie Les Verts. Et l'écologie, et je le dis très, très clairement, est aujourd'hui une thématique bien trop sérieuse pour être laissée à ce genre de guignol politique.
Guillaume Bigot, politologue, guignol politique.
Absolument, absolument. Qui ne peuvent pas se revendiquer de l'écologie. Ils peuvent se revendiquer de la gauche, et c'est au fond la même chose. Aujourd'hui, vous prenez un certain nombre de leaders d'Écologie Les Verts, on ne peut pas considérer que ce sont des écologistes, des environnementalistes.
Ça veut aussi dire, Guillaume Bigot, en toile de fond, que la radicalité, aujourd'hui, ça fonctionne.
Oui, ça fonctionne.
Des gens, des Français, sont en soif de radicalité.
Alors ça, c'est un autre mécanisme. Je pense que ça a trait à la fois avec une sorte d'aseptisation et de... disons, de politiquement correct, très écrasant, comme une chape de plomb dans le débat. Et donc, ça veut dire que tout ce qui est un discours rude et contestataire va attirer, naturellement, et ça a sans doute à voir avec le mécanisme des réseaux sociaux. Mais d'abord, il faut rappeler quand même que les écolos ont toujours tendance, plutôt une tendance naturelle, à promouvoir, comme tous les partis fortement idéologisés, si on interroge les militants vont avoir une température au-delà de celle du corps social. Le corps social, même les gens qui s'intéressent à l'écologie, sont à 37, 37,2. Ouais. Si vous interrogez les militants, ils sont à 38, 38,5. Ils ont de la fièvre, si vous voulez. Voilà, donc ça donne Eva Joly, donc ça pourrait donner Sandrine Rousseau. Mais Sandrine Rousseau, c'est vrai, vous avez raison, Thomas, il y a un phénomène de radicalité, de sorte qu'à la
ronde. Qui est pleinement assumé. Hein.
Pleinement assumé. Là, on a l'impression, si vous l'écoutez, on a l'impression d'une illuminée, on a l'impression c'est la folie verte. C'est une sorte de Greta Thunberg ménopausée. Enfin, elle raconte des
trucs. S'il vous plaît, Guillaume Bigot.
Non, les plus. Pardon, oui. Non, mais c'est une image. Oui. C'est-à-dire qu'elle joue ça, elle surjoue ça. Oui. Mais en fait, c'est une femme intelligente. Elle, à mon avis, elle le fait à dessein. Même si elle est convaincue, elle force le trait, elle monte le son. Quand je dis Greta Thunberg, c'est-à-dire, effectivement, on voit bien Greta Thunberg, il y a des yeux comme des chouettes, elle débite des trucs ultra violents en regardant face caméra. Enfin, c'est un peu ce que fait Madame Rousseau. Elle n'a pas le même âge, c'est simplement ce que je voulais dire.
Cela dit, une fois encore, enfin, moi, je suis un peu gêné parce que le grand perdant là-dedans, c'est l'environnement et l'écologie. Hiver, on a un parti vert qui. À part Yannick Jadot, mais qui est dans cette primaire très en difficulté et qui ces derniers jours a quasiment déjà rendu les armes, qui est sur une position extrêmement défensive, ce mouvement ne parle plus d'environnement. On l'a entendu pendant les municipales, on l'a entendu pendant les régionales, et lorsqu'il en parle, il est sur une ligne d'écologie punitive. On entend Madame Rousseau qui aujourd'hui propose d'augmenter le prix de l'essence à 2 euros. Les auditeurs d'Europe 1 et les téléspectateurs de CNews, ce matin, ils ont pris un coup de bambou sur la tête. Est-ce qu'on a envie d'aller vers ça? Est-ce qu'on veut cette écologie punitive? Est-ce qu'on veut, au fond, d'un modèle de déconstruction? On parlait dans les débats des Verts de l'homme déconstruit. On parle de décroissance, on parle d'imaginaire décolonial. En fait,
pas compris ce que ça veut véritablement dire.
C'est probablement l'homme Lego, Playmobil, Ikea, ce que vous voulez. Mais en fait, vous voyez bien que quelle est la part d'environnemental qui parle au grand public et qui emmène les Français dans un vrai projet de transition écologique et de société. Et la droite et le centre ont vraiment un rôle à jouer pour reprendre ce sujet rapidement.
Merci beaucoup, Mathieu Cuif, d'avoir été avec nous dans la matinale week-end CNews Europe 1. Guillaume Bigot, on vous retrouvera dans quelques instants sur CNews. C'est la fin de la matinale week-end sur l'antenne d'Europe 1. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Frédéric Taddeï pour son émission. C'est arrivé demain. On se retrouve donc dès le week-end prochain sur Europe 1 pour la matinale week-end de 7h à 9h. Sur CNews, vous restez bien sûr avec nous. Dans quelques instants, la matinale week-end se poursuit jusqu'à 10h en direct. Merci de votre présence.
La matinale week-end, CNews.